Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonsoir, bienvenue à cette table ronde discrimination, le poids des origines. Le programme ce soir, c'est une table ronde avec plusieurs intervenants que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis on va commencer d'abord par un mot de la présidente de l'université, Madame Emmanuelle Garnier.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Madame la défenseure des droits, monsieur le vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, mesdames et messieurs les intervenants et les intervenantes de cette soirée, cher public, chers toutes, chers tous. Alors c'est un grand honneur et une réelle satisfaction pour l'Université Toulouse-Jean Jaurès d'accueillir aujourd'hui cette soirée débat autour de la thématique des discriminations. Un honneur de vous accueillir dans nos murs, si vous n'êtes pas vous-même déjà soit personnel, soit étudiant ou étudiante de cette université, d'accueillir dans nos murs la défenseure des droits pour évoquer cette thématique qui, bien que de façon différente, sans doute, nous mobilise conjointement. Également un honneur de vous accueillir, monsieur le vice-président du conseil départemental, dans le cadre des partenariats que nous souhaitons consolider entre l'université et le conseil départemental, notamment autour des enjeux sciences et société. Un honneur donc, mais aussi une vraie satisfaction que notre université accueille cette soirée débat. Pour une société, la diversité des origines ne doit jamais apparaître comme fardeau dont il faudrait se délester. Elle est une source d'ouverture et d'enrichissement, mais cette diversité induit une responsabilité, une exigence, pour que celles et ceux qui en sont les porteurs et les porteuses n'en soient pas les victimes. C'est bien cette perspective humaniste, universaliste, qui se trouve au cœur de l'université. Et l'université, avec un grand U, eh bien, en première ligne pour contribuer à la nécessaire lutte contre toutes les formes de discrimination. L'université est un lieu d'accès à la connaissance et à la culture pour toutes et tous, indépendamment de l'origine sociale, culturelle, indépendamment du genre ou de l'orientation sexuelle, indépendamment du prénom ou de l'adresse. L'université est et doit rester un creuset d'émancipation individuelle tout autant qu'un espace de formation et de préparation à une insertion professionnelle. L'université est grande lorsqu'elle donne à chacun et à chacune les moyens de réussir sur ces deux plans. La réussite au diplôme est un objectif, car le diplôme, justement et dûment valorisé, doit pouvoir permettre à l'individu de prendre le pouvoir sur son devenir professionnel et ainsi de s'affranchir des déterminismes sociaux et culturels. Mais à l'université, la réussite ne se réduit pas à une vision unidimensionnelle d'obtention du diplôme. Nous devons être capables d'accueillir, d'accompagner et de valoriser une pluralité de parcours, de talents et de réussites, avec un S à réussite. L'université, c'est bien sûr accompagner chacune et chacun par la formation, les formations, mais l'université, c'est aussi l'élaboration continue d'une pensée. La recherche nous aide à questionner, comprendre et remettre en cause les normes, les représentations et les structures. Elle aide à analyser les causes profondes de ces inégalités. Et par ce travail, la recherche contribue à déconstruire les mécanismes, à démontrer les injustices pour ce qu'elles sont, et peut-être humblement, mais avec détermination, à contribuer à des changements sociétaux. Ce qui vaut pour l'université au sens large trouve un écho particulier ici, sur le campus du Mirail, au cœur d'un quartier politique de la ville, qui est particulièrement objet de discrimination, où se cumulent peut-être des discriminations de différentes natures. Nous en avons parlé juste avant. Et je veux dire tout le sens que cela a pour ma communauté universitaire, je dis « ma » en tant que présidente, pour notre communauté universitaire et pour moi-même, que notre campus principal se situe en zone périurbaine, au cœur de ce quartier. car penser lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances, c'est aussi ne pas penser l'université comme une tour d'ivoire ni comme un domaine réservé. L'université Toulouse-Jean Jaurès est au cœur du quartier et elle est par là même une actrice du devenir du quartier. Il ne s'agit pas de nier les difficultés qui peuvent s'y poser, mais c'est justement en étant les témoins quotidiens que l'on peut puiser une volonté d'agir. Et c'est bien par cette action, résolument tournée vers l'universalité de l'accès à l'éducation et fondée sur la conviction du rôle social que joue l'école républicaine, que joue l'université, qui nous conduit à mener une politique volontariste dans le développement des relations avec le quartier. Cela suppose d'ouvrir nos portes et de travailler main dans la main avec les acteurs sociaux, éducatifs et associatifs. L'université ne doit pas être un espace isolé, mais un lieu d'échange, de rencontre et de transformation pour l'ensemble de la société. Il est de notre responsabilité de lutter contre les effets d'autocensure, de donner confiance et d'encourager tous les talents, quelles que soient les origines. Voilà. Je ne ferai pas plus long parce que notre temps est compté. Je conclurai en adressant mes remerciements aux intervenants et intervenantes, aux organisatrices et aux organisateurs, à vous toutes et à vous tous qui êtes présents, nombreux, et pour participer à cette soirée débat. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vais être obligée de m'éclipser parce qu'il y a un autre amphi où il se passe quelque chose d'important également, mais je reviendrai plus tard. Merci à vous.
Bien, Madame la Présidente, Madame la Défenseure des Droits, Mesdames, Messieurs les intervenantes, on m'a demandé d'avoir un propos concis. Je vais donc déposer sur la table les quelques mots qui m'avaient été préparés par les collaborateurs, mais en les déposant, cela me sert de pense-bête pour les remercier pour leur engagement, à la fois dans la préparation de ces quelques mots que je viens de poser, mais également dans l'organisation de cette soirée. Parce que ce propos introductif, il est là et il est fait, finalement, par les trois parties qui sont main dans la main et qui ont travaillé main dans la main à ce que puisse se tenir cette conférence, l'université Jean Jaurès, dont je remercie Madame la Présidente et les équipes qui se sont engagées de pouvoir nous accueillir ce soir en ces murs, et Madame la Défenseure des droits et ses équipes qui ont souhaité, aux côtés du Conseil départemental, finalement, dans une forme de volonté commune, organiser cette conférence. Alors quelques mots simplement pour vous dire pourquoi est-ce qu'une institution comme la nôtre s'engage dans l'organisation de ce type de moment. Parce que contrairement à ce que certains voudraient penser, la gestion d'une collectivité locale, c'est pas simplement un acte administratif. La gestion d'une collectivité locale, c'est un acte politique, et nous revendiquons le fait d'avoir une collectivité qui mène des politiques qui sont guidées par la légitimité que nous ont donné les citoyens et d'avoir pour socle de valeur la volonté de faire vivre la République dans le réel de tous les habitantes et habitants de Haute-Garonne. Et si nous avons à organiser des moments comme celui-là, c'est bien qu'aujourd'hui, les valeurs de cette République, elles ne sont pas encore une réalité dans le quotidien de toutes et tous. Et nous sommes guidés par peut-être trois mots, dirais-je, et pour les résumer ainsi. Le premier, c'est l'universalisme. L'universalisme, c'est cette volonté qui est la nôtre, que l'on puisse vivre dans une société dans laquelle chaque individu est reconnu dans sa complexité, dans ses fragments d'identité qui peuvent être multiples et qui se cumulent, et que personne ne soit discriminé pour un fragment d'identité ou un autre, et parfois né à connaître des discriminations qui se cumulent en fonction des éléments qui peuvent composer l'identité de chacune et de chacun. Le deuxième mot, c'est la question de l'émancipation. On croit que pour qu'une société progresse, pour qu'une société soit apaisée, il faut que l'on participe à travers les politiques qui sont les nôtres à l'émancipation des individus. C'est ce que l'on fait à travers notre engagement pour l'éducation, mais c'est ce que l'on fait aussi en essayant d'organiser, d'impulser des conférences de ce type. Nous avons impulsé cette conférence ce soir, mais il y a de nombreux rendez-vous auxquels je fais un rapide instant promo, auxquels je vous invite à vous joindre. Nous aurons notamment le 10 décembre prochain, donc mardi prochain, au Conseil départemental, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui viendra plancher devant nous sur le thème de l'éducation chemin d'émancipation et qui confrontera ensuite son regard avec le public et donc avec potentiellement votre regard si vous faites le choix d'être à nos côtés. Et nous pensons que c'est à travers la transmission des savoirs que l'on permet aux individus de faire une différence entre ce qui relève de la croyance et ce qui relève du savoir, et que l'on permet aux individus de construire leur propre identité, leur propre citoyenneté et leur appartenance à notre République. Alors, je le disais, émancipation, universalisme et humanisme, parce que nous revendiquons d'être une collectivité de gauche dans laquelle on considère, nous, que l'humain est prioritaire surtout, et prioritaire surtout sur tous les dangers que lui font courir le capitalisme parfois débridé. Et donc nous avons des politiques dans ce domaine, notamment nos politiques de solidarité auxquelles nous sommes particulièrement attachés. Voilà pour les quelques mots pour décrire pourquoi est-ce que nous étions amenés à participer à ce rendez-vous ce soir et à avoir fait le choix de nouer ce partenariat. J'appelle et j'espère que nous en aurons d'autres nombreux, c'est ce que je disais à Madame la Présidente, parce que vous avez la chance d'être dans une université et à la tête d'une université qui est bouillonnante. Bouillonnante de débats, bouillonnante de savoirs, bouillonnante de richesses, dans lesquelles parfois les idées se frottent, mais c'est aussi par la controverse que l'on avance. Et donc je pense que cette première grande expérience dans ce format-là en amènera d'autres, et donc je suis très heureux que vous nous ayez accueillis ce soir, et je suis très heureux que nous puissions participer toutes et tous à ce moment. Merci à vous, et merci à Madame la Défenseure des Droits d'être à nos côtés. Merci. On m'avait demandé d'être le maître de cérémonie pour passer le micro à quelqu'un d'autre, et j'ai mal entendu, et donc voilà, je suppose qu'il fallait que je vous passe le micro, pardonnez-moi.
Je vous en prie, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, un tout petit mot rapide. À la suite, je fais naturellement mien les propos qui ont été tenus par les précédents orateurs sur les valeurs et les objectifs que nous souhaitons atteindre. Moi, je m'interviens auprès de vous en tant que référent sur les thèmes de la laïcité, de la discrimination liée aux origines dans cette université. Alors, ce qui intègre évidemment là toute la question de l'antisémitisme et de la lutte contre le racisme. Pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup entendu parler, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de publicité jusqu'à présent. Je vous dis très humblement les choses. Moi, je suis plutôt encore en phase de formation et en phase aussi de terrain d'enquête dans l'université. Vous ne le savez pas, mais je me suis beaucoup déplacé à l'université. Je rencontre des gens, je discute, j'essaie de voir un peu quels sont les problèmes avant de pouvoir vraiment poser des diagnostics et de mettre en œuvre ensuite, on l'espère, des solutions concrètes. Et là, je vais passer sur du concret. À partir du début de l'année prochaine, notre université se dote d'un nouveau dispositif de signalement. L'inauguration est en début de 2025, où toute personne, que ce soit bien entendu des étudiants, des étudiantes, des personnels, etc., qui soit victime ou témoin d'une discrimination dans tous les domaines, puisque ça touche aussi bien entendu tout ce qui est discrimination liée au handicap, tout ce qui est discrimination liée aux violences sexuelles et sexistes, etc., pourra avoir recours donc à cette plateforme qui sera ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année, pour déposer son témoignage. Ce témoignage sera ensuite transmis aux référents selon les thèmes qui sont soulevés dans le signalement en question. Il peut y avoir, on le sait, on travaille beaucoup d'ailleurs les uns avec les autres, des signalements qui sont à la fois du violence sexuelle et sexiste et des discriminations liées aux origines. Donc on travaille ensemble pour ensuite pouvoir correctement recevoir les personnes, mettre en place une cellule d'écoute, travailler avec eux à éventuellement des solutions. Le cas échéant, lorsqu'il s'agit vraiment de délits, voire naturellement de crimes, de passer ensuite le relais à la direction des affaires juridiques. Et donc c'est ce dispositif qui sera mis en place à partir du début de l'année prochaine. Et donc là, j'espère recevoir très peu de signalements, ce serait bon signe, mais j'espère que tous les signalements qui auraient dû être reçus, je les recevrai et qu'on sera en mesure de les traiter correctement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Alors pour la suite du programme, je vais présenter Madame Claire Hédon, défenseur des droits, qui va faire une petite conférence introductive au sujet. Alors Madame Claire Hédon a été nommée défenseur des droits en juillet 2020, succédant à Jacques Toubon à la tête de cette institution indépendante. Anciennement journaliste, elle a travaillé plusieurs années pour Radio France Internationale, tout en s'impliquant activement dans la vie associative, jusqu'à devenir présidente d'ATD Carmonde de 2015 à 2020, une organisation engagée dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Dans ses fonctions actuelles, Claire Hédon est chargée de deux principales missions, défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l'égalité de tous et toutes. Et aujourd'hui, sa présence parmi nous est une précieuse occasion d'échanger sur les moyens concrets de faire reculer ces inégalités. Madame, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup Iris pour cette présentation. Vous avez bien présenté l'institution. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, toujours heureuse de pouvoir parler devant des étudiantes et des étudiants. Je vous avoue aussi que toujours heureuse de descendre dans le sud parce que ça fait du bien de voir de la lumière et un peu plus de chaleur que le gris que j'ai quitté. Et puis de voir à la fois une université, un département et des jeunes qui se mobilisent sur ces questions de discrimination me paraissent vraiment essentiel. Quand on parle discrimination origine, on parle évidemment de l'enquête Théo, trajectoire et origine, qui est vraiment une source d'information importante parce que je vais vous l'expliquer. On ne voit pas l'ensemble des discriminations dans les réclamations que nous recevons, et donc ces enquêtes, ce travail est absolument indispensable pour mesurer l'ampleur des discriminations. Et en plus, le grand intérêt de cette enquête Théo, c'est qu'elle s'inscrit dans le temps long. C'est vraiment maintenant une enquête de référence sur les discriminations origine. Je trouve qu'elle irrigue différentes sphères de la société et entre autres, c'est le cas d'une nouvelle exposition au Musée de l'Homme qui s'inspire de cette enquête. Il y a trois points que j'ai envie d'aborder avec vous. C'est d'abord évidemment, à partir des discriminations, vous dire un peu ce que fait cette institution du défenseur des droits, parce que je sais que nous ne sommes pas bien connus. Face à l'ampleur des discriminations, ce sera le second point, je vais revenir sur le fait qu'on ne peut que constater la faiblesse des recours et que c'est important de comprendre pourquoi, et puis revenir après sur l'enquête Théo, même si évidemment c'est Patrick Simon qui vous en parlera le mieux pour l'avoir menée. Un mot, vous l'avez très bien dit Iris tout à l'heure, sur la façon de définir l'institution du défenseur des droits. Je dis toujours qu'on a deux missions, la mission d'abord de défendre les droits des personnes, c'est-à-dire traiter les réclamations que nous recevons dans nos domaines de compétences et promouvoir les droits et les libertés. Et nos domaines de compétences, il y a donc la lutte contre les discriminations, il y a aussi tous les droits des usagers de services publics. Ça peut être des difficultés qui sont rencontrées avec la CAF, avec par exemple les APL, avec l'assurance maladie, différentes, avec les préfectures. Nous sommes aussi chargés de défendre les droits des enfants. Nous sommes également l'organe de contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, et ce qui m'amènera effectivement à revenir sur la question des contrôles d'identité discriminatoires. Et nous sommes aussi chargés de protéger et d'orienter les lanceurs d'alerte. Et je vous ai dit, la loi. Enfin, vous savez d'abord qu'on est une institution qui est inscrite dans la Constitution. C'est la réforme constitutionnelle de 2008. Donc ça nous donne une assise et un pouvoir. Et c'est la loi de 2011 qui crée vraiment nos pouvoirs et nos différentes missions. Et la loi, elle est très claire. On n'est pas là que pour traiter des réclamations individuelles, mais bien pour promouvoir les droits et les libertés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir des difficultés que nous observons, nous sommes là pour dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. Et ce point-là est très important parce que c'est à ce titre que nous faisons un certain nombre de rapports, que nous menons des enquêtes, que nous finançons des enquêtes. On a participé à l'enquête Théo, entre autres. Et c'est dans ce cadre-là que nous rendons aussi des avis au Parlement sur des projets, propositions de loi. Et ces échanges avec le Parlement sont importants. Il y a des moments où on fait bouger les lignes. Pas toujours, et on a eu quelques échecs patents. Si je prends la loi immigration, on ne peut pas dire qu'on a été exactement suivi dans notre avis, et elle nous inquiétait particulièrement. Et si j'en reviens donc à la question des discriminations, je trouve que l'enquête Théo, elle apporte des précisions sur ces discriminations. D'abord, elle montre que 19% des personnes âgées de 18 à 49 ans déclarent avoir été victimes de discrimination au cours des 5 dernières années. Elle n'était que 14% en 2008. Alors, évidemment, on peut se poser la question du est-ce que les discriminations augmentent ou est-ce qu'il y a une prise de conscience plus importante, et je pense entre autres chez les jeunes, de ces discriminations. Et puis ces dernières semaines, il y a deux études qui sont sorties, et deux enquêtes plutôt, et qui me paraissent intéressantes, celle de l'INSEE et celle du service de statistiques ministérielles de la sécurité intérieure qui complètent ces données. D'une part, justement, sur la sécurité intérieure, qui révèle que la hausse très importante du nombre de victimes de discrimination, c'est plus 52%. Entre 2021 et 2022. Et d'autre part, dans son portrait social de la France, l'INSEE note que les descendants d'immigrés d'origine asiatiques et africaines déclarent plus souvent avoir connu des discriminations que la première génération, 34% contre 26%, et ça rejoint complètement les chiffres qui sont dans l'enquête Théo. Et par ailleurs, entre 2019 et 2020, un quart des immigrés, comme de leurs descendants, déclarent des traitements inégalitaires ou des discriminations au cours des 5 dernières années. Donc ces chiffres, ça montre la prégnance des discriminations liées à l'origine. Et au-delà du fait discriminatoire, ce qui est important, c'est que ce phénomène attaque directement la cohésion de notre société. Et je trouve qu'un chiffre de l'enquête INSEE le montre bien. Parmi les descendants d'immigrés non européens, 29% estiment qu'on ne les voit pas comme des Français. On leur demande également beaucoup plus souvent d'où ils viennent, et cela concerne seulement 8% des descendants d'immigrés européens. Et ce renvoi fréquent aux origines peut expliquer pourquoi leur vécu discriminatoire est plus fort, et c'est un petit peu ce paradoxe de l'intégration, parce que les descendants d'immigrés nés scolarisés en France, en fait, déclarent plus souvent avoir subi des discriminations que leurs parents. Et on sait là, ce qu'on revient à ce que je disais, une conscience plus importante des discriminations. Et cette sensibilité nouvelle au plan générationnel peut justement participer à cette hausse des chiffres de la discrimination qu'on observe. Mais je pense que le contexte politique et sociétal peut aussi jouer sur cette prise de conscience des discriminations. Vous savez qu'on a un numéro de téléphone, vous avez dû voir des petits dépliants, le 3928, qui est un numéro que vous pouvez appeler si vous pensez être victime de discrimination. Au bout du fil, des personnes formées juridiquement vont vous répondre et donner des informations et peuvent passer une heure au téléphone avec vous. Qu'est-ce que nous avons observé au mois de juin, dans le cadre électoral, avec tous les propos que vous avez pu entendre? Une augmentation de 70% des appels. 70% d'appels supplémentaires liés à des propos racistes, antisémites, islamophobes, totalement relatifs, révélateurs des échanges politiques qu'il y avait à ce moment-là, recevaient des personnes qui étaient soit parce qu'elles portaient le voile ou parce qu'elles portaient une kippa. Et c'est absolument effrayant, et ça disait quelque chose de l'atmosphère, et ce que nous avons observé, les associations qui travaillent sur les questions de discrimination l'ont aussi vu. Et évidemment, ça nous inquiète particulièrement. L'autre point sur lequel je veux insister, c'est que ces discriminations ont un effet sur la santé physique et psychique des victimes. Toutes les enquêtes que nous menons font ressortir à quel point c'est délétère pour la santé physique, psychique, pour l'accès à l'emploi, comment ça dévalorise les gens et comment il y a une perte de confiance qui sont liées à ces discriminations. Et elles sont difficiles à vivre, pourquoi ? Parce qu'en fait, ces discriminations, elles nous touchent rarement pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est, ou en tout cas ce qu'on est supposé être, et c'est une violence particulière qui heurte en fait l'identité de la personne et qui là-dessus peut tous nous concerner. Et dans son portrait social de la France, l'INSEE souligne que 44% des victimes de discrimination en raison de l'origine, de la couleur de peau ou de la religion ressentent l'inquiétude à l'idée d'être injuriées, contre 24% de l'ensemble de la population. Donc vous voyez bien, dans les chiffres que je vous ai donnés, une présence massive des discriminations. Et puis, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous, en fait, on est face à un non-recours massif. Les recours juridiques sont trop rares. Selon nos enquêtes avec l'Organisation internationale du travail, on fait un baromètre tous les ans sur les discriminations, seuls 8% des personnes ayant déclaré avoir subi une discrimination entreprennent une démarche auprès d'une association, d'un syndicat ou du défenseur des droits, et seulement 2% portent plainte. L'institution du défenseur des droits en 2023 a reçu 138 000 réclamations. Seulement 6 700 qui concernent les discriminations. Majoritairement, nos réclamations concernent les droits des usagers de services publics. Les recours sont trop faibles. Mais quand je dis ça, je veux dire, il n'y a aucun reproche aux victimes de discrimination de leur dire, parce que ce serait quand même un comble, de leur dire, puis en plus, vous ne portez pas plainte, quoi. Ou en gros, en plus, vous ne venez pas devant l'institution du défenseur des droits. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. Et on a mené une enquête auprès des jeunes avocats et avocates, en 2018, Il en ressort que 38% des jeunes avocats et avocates disent avoir été victimes de discrimination dans les 5 dernières années. Si on prend que les femmes, c'est 52%. Là-dessus, moins de 5% sont allés devant les tribunaux ou devant l'institution du défenseur des droits. Donc là, on est face à un public qui connaît ses droits, dont on dirait, s'ils sont avocats, ils ont a priori les moyens de se défendre, et qui ne le font pas. Pourquoi ? La peur des représailles. Vous êtes avocat à Toulouse et vous dénoncez une discrimination dans votre cabinet d'avocat, vous avez un tout petit peu peur d'être blacklisté sur la place toulousaine. Donc évidemment, une inquiétude de représailles qu'on voit beaucoup dans nos réclamations. Et puis un peu aussi la question du à quoi ça va servir, en quoi ça va résoudre et mon problème actuel et m'aider à avancer. Donc si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la lutte contre les discriminations. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que il faut mener des campagnes d'information sur ce que sont les discriminations, pourquoi c'est délétère, et ça veut aussi dire l'importance d'une enquête comme celle de Théo, Trajectoire et Origine, puisqu'autrement, si on n'avait pas ce genre d'enquête, une grande part des discriminations sont de fait invisibles. Les derniers chiffres de l'enquête vécue et victimisation du service statistique ministériel de la sécurité intérieure dont je vous parlais tout à l'heure apportent un éclairage intéressant sur cette question. 55% des victimes de discrimination pensent qu'une déclaration au commissariat ou en gendarmerie n'aurait servi à rien ou que leur témoignage n'aurait pas été pris au sérieux. Et 20% pensent que ce n'était pas assez grave pour le faire. J'ai conscience que cette difficulté, une forme de charge mentale sur la victime, de se dire qu'est-ce qu'elle fait face à ce genre de situation, est quelque chose d'important. Mais vraiment, moi, je ne peux que vous inciter à utiliser les outils qui sont à votre disposition, à la fois ce que je vous disais, le 3928, ce téléphone, le fait aussi de nous saisir, nos délégués. Vous savez que la particularité aussi de l'institution, c'est qu'elle travaille à la fois avec des agents, 255 agents, dont la majorité à Paris, mais une partie en région, et 600 délégués territoriaux, donc les agents majoritairement des juristes, et 600 délégués territoriaux, je devrais même maintenant dire 620, qui sont, comme leur nom l'indique, sur le territoire. Il y en a 15 en Haute-Garonne, qui sont encadrés par un chef de pôle régional, qui est là, Romain Blanchard, et un chargé de mission, David Rouy, qui est à côté. Ça veut dire que vous avez aussi des ressources localement, parce que vous n'avez pas forcément ou envie d'appeler ou faire une saisine sur le site internet, vous pouvez aussi aller voir nos délégués, aller voir aussi le site internet antidiscrimination.fr qui vous donnera des informations. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est quand même les avancées, parce qu'évidemment je vous dresse là un tableau assez sombre, mais nous avons tout de même eu des avancées ces dernières années. Il y a eu des améliorations majeures. D'abord, la reconnaissance des discriminations directes et indirectes, évaluées à l'aune de leur effet et non de l'intention de leur auteur. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la discrimination, au pénal, il va falloir prouver l'intention de discriminer, mais au civil, ce n'est pas nécessaire. Et il y a un certain nombre, par exemple, d'employeurs qui disent « mais moi, j'ai jamais voulu discriminer ». Enfin, la réalité, c'est quand même que vous l'avez fait, et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc, ce point-là est important. Donc, l'aménagement de la charge de la preuve aussi qui est important. Je vous fais un petit résumé. Vous licenciez une femme à son retour de congé maternité, bah, c'est à l'entreprise de prouver qu'elle n'a pas voulu discriminer, parce que comment vous dire qu'il y a tous les éléments qui laissent à penser que c'est une discrimination. L'acceptation aussi du testing comme moyen de preuve et la création de l'action de groupe en 2016 qui permet à plusieurs victimes d'agir collectivement, même si je suis très honnête, je dois dire que la loi a nettement besoin d'être améliorée. Il y a une loi pendante justement en ce moment entre l'Assemblée nationale et le Sénat et on aimerait vraiment qu'elle aboutisse parce qu'il y a besoin d'améliorer les choses. Mais donc, on avance, mais je vais quand même vous faire du mais parce que le contentieux présente de fortes limites, parce que la démarche contentieuse, elle permet que la réparation du préjudice individuel sans sanction dissuasive. Si je prends l'exemple des employeurs, ils sont souvent condamnés à rembourser ce qu'ils auraient dû payer s'ils n'avaient pas discriminé la personne. C'est pas totalement dissuasif et on a besoin de peines qui soient un peu plus dissuasives. Et parce que la sanction, elle reste fondée sur une vision individuelle réparatrice du droit, Et nous, ce qu'on constate, c'est que vu l'ampleur des discriminations, leur dimension systémique, la lutte contre les discriminations ne peut pas reposer, comme je vous le disais, uniquement sur les victimes. Et un exemple qui, pour moi, illustre totalement les limites du recours individuel, c'est la question des contrôles d'identité discriminatoires. Et je voudrais vous en dire un mot. Une enquête menée en 2016 par l'institution sur l'accès au droit et qu'on est en train de renouveler cette année a montré que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés par les forces de l'ordre. Il y a déjà eu une condamnation à Cour de cassation en 2016 qui reconnaît ces contrôles d'identité discriminatoires et la responsabilité de l'État dans ce domaine, confortée après par un arrêt de la Cour d'appel de Paris sur un contrôle d'identité discriminatoire Gare du Nord. Une saisine des associations du Conseil d'État qui n'est pas allée jusqu'à dire que ces contrôles d'identité discriminatoires étaient systémiques, mais qui a dit qu'ils avaient une ampleur importante et qu'ils étaient délétères pour les personnes, mais renvoyant à une politique publique. Et puis, il y a 2 ans, j'ai saisi la Cour des comptes pour qu'elle évalue le nombre de contrôles d'identité, pour quelle efficacité et quel lien police-population. La Cour des comptes a rendu son rapport il y a exactement un an. Qu'est-ce que dit ce rapport ? Un chiffre d'abord effrayant que nous n'avions jamais imaginé, de 47 millions de contrôles d'identité. Ils ont additionné les 32 millions de contrôles d'identité aux 15 millions de contrôles routiers. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de contrôles routiers peuvent de fait être des contrôles d'identité, mais surtout parce que les contrôles routiers, les forces de l'ordre sont capables de vous dire le pourcentage de personnes qui étaient sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool, sans carte grise, sans assurance, sans permis. Et puis alors les 32 millions de contrôles d'identité, ben on ne sait pas. On n'a pas de résultat, même à la Cour des comptes, les forces de l'ordre n'ont pas été capables de dire qu'est-ce qu'ils trouvaient dans ces 32 millions de contrôles d'identité. Évidemment effrayant, et ce qui est intéressant, c'est que la Cour des comptes fait un certain nombre de recommandations qui rejoignent tout à fait les nôtres. Et vous voulez dire, elles sont assez basiques. D'abord, d'avoir un système de traçabilité globale qui permet d'évaluer tous les ans ces discriminations. Évidemment, ces contrôles d'identité discriminatoires. Ces contrôles d'identité. Après, la question de savoir quand est-ce qu'ils sont discriminatoires. Le chiffre de 47 millions est une évaluation de la part de la Cour des comptes. Puisqu'il n'y a pas de traçabilité, c'est évidemment une évaluation qui n'est pas contestée par les forces de l'ordre, police et gendarmerie. Donc, une traçabilité globale. Une traçabilité individuelle. Pourquoi ? Parce que si on veut que les personnes aient un recours, nous, en fait, il y a plein de gens qui nous disent « Bah oui, je sais bien que j'ai été contrôlé pour la énième fois de mon identité, mais enfin, j'ai aucune preuve, en fait, que j'ai été contrôlé. » Donc, il faut une traçabilité pour pouvoir avoir un recours. Les pays limitrophes sont tout à fait en train de les mettre en place. Si vous allez en Grande-Bretagne, d'abord en Grande-Bretagne, il n'y a pas de contrôle d'identité puisque les gens n'ont pas de pièce d'identité, mais heureusement il y a des contrôles, ça s'appelle les stop and search. On peut vous arrêter dans la rue, vous poser des questions et vous fouiller. Et c'est enregistré sur une tablette. Et donc le lendemain, vous pouvez aller au commissariat et récupérer un récépissé. Est-ce qu'il faut faire comme les Anglais, enregistrement sur tablette ? Les Allemands viennent de voter une loi avec un système aussi de traçabilité. On ne peut pas rester dans cette situation sans traçabilité individuelle. Et très honnêtement, entre les outils qu'ont les forces de l'ordre avec un genre de smartphone néo, plus les caméras piétons, il y aurait tout à fait moyen de faire une traçabilité. Je suis honnêtement effrayée qu'on n'avance pas sur ce sujet-là. Je ne sais plus par quel bout attraper le morceau pour qu'on puisse vraiment bouger. On est en attente d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur lequel on fonde pas mal d'espoir. Mais je pense qu'il y a urgence à bouger. Il y a eu un plan lancé il y a maintenant 2 ans, le PRADO, le plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, qui est un plan intéressant dans lequel il y a pas mal de choses, mais alors il y a rien sur les contrôles d'identité discriminatoires, ce qui est quand même absolument fascinant. On a un éléphant au milieu de la pièce quand vous parlez de discrimination, et il n'est pas dans ce plan. Donc évidemment, quelque chose qui pour moi me paraît particulièrement inquiétant. L'autre point qui me paraît aussi important sur ces questions de discrimination, et je pense que vous y reviendrez dans la table ronde, c'est l'approche intersectionnelle. Parce que ces discriminations, elles ne sont pas isolées, elles se croisent, se renforcent et touchent particulièrement un certain nombre de personnes appartenant à plusieurs groupes. Et intégrer le vécu des personnes avec plusieurs identités, attribuées d'office ou revendiquées, est nécessaire pour construire des politiques globales de lutte contre les discriminations. Et les stéréotypes, les préjugés, j'ai cumulées contribuent à des expériences discriminatoires spécifiques et il faut le reconnaître. Et on avait porté cette recommandation dans notre rapport en 2021 sur les travailleurs handicapés et elle est particulièrement pertinente dans le cas des discriminations liées à l'origine. Et vous savez qu'en France, on est un peu réticent à cette approche en raison d'une culture universaliste, à juste titre. Hein. On a la question d'égalité écrite sur les frontons de nos mairies. Mais du coup, on a un tout petit peu de mal à reconnaître l'existence de ces discriminations parce qu'en fait, cet universalisme, c'est un objectif, cette égalité, c'est un objectif. Mais entre nous, on n'y est pas encore. Et juste pour conclure, avant de laisser la place à la table ronde où vous allez parler plus longuement de ces questions, je vous rappellerai quand même les réactions parfois hostiles qu'il y avait eu à la réalisation du premier volet de l'enquête Théo en 2008. Et aujourd'hui, je crains que le faible retentissement des dernières enquêtes sur les discriminations liées à l'origine témoigne un peu d'une habitude, d'une normalisation des discriminations. Je pense qu'on est face à un essoufflement dans cette lutte depuis environ 20 ans. Je trouve que la non-discrimination comme objectif politique a largement disparu du débat, des discours des décideurs. Et pourtant, lutter contre les discriminations, c'est absolument fondamental pour renforcer notre cohésion sociale. Et dans une époque où on a tendance à monter en opposition les populations les unes contre les autres, promouvoir l'égalité et la cohésion dans notre démocratie, c'est pas qu'un simple objectif de politique publique, c'est un socle pour former une société solidaire de personnes libres, égales et dignes. Et il est urgent d'agir pour transformer l'égalité en une réalité concrète plutôt que simplement en une aspiration. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Hédon.
Je vous laisse la place. Hein.
Merci. On vous invitera à revenir à la fin de la conférence donc pour parler un petit peu plus du sujet du non-recours, justement, des personnes discriminées. Alors, j'invite nos intervenants et intervenantes à venir sur scène pour commencer la table ronde.
Même audio, une mémoire sonore.
Alors c'est moi qui vais animer cette table ronde. Je me présente, je suis Iris Ouedraogo, journaliste et formatrice en podcast. Je suis spécialisée dans les sujets de justice sociale et de discrimination. Et je suis aussi membre de l'AJAR, c'est l'association des journalistes antiracistes et racisés. C'est une association qui a presque 2 ans et le but premier de l'association, c'est de lutter contre le racisme dans les médias, au sein des rédactions, sur le terrain et aussi dans la production médiatique. Donc je vais présenter nos intervenants pour cette table ronde. Alors Nathanaël Vignaud, vous êtes le cofondateur et coordinateur de l'association Rencontrons-nous à Toulouse, qui cherche à redonner la parole aux premiers concernés, les habitants roms du terrain de la Flambert, un bidonville situé à Purpan, non loin d'ici. J'ai bien prononcé, c'est bon? Oui. Donc l'association déploie 4 volets au quotidien, culture, éducation, insertion professionnelle et rencontre, formation. Et l'association a fêté ses 10 ans cette année. Nouria Boukobza, vous êtes anthropologue, membre du laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire et maîtresse de conférences à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de Toulouse. Vous formez les enseignants sur les sujets d'inégalité, de discrimination. Et pour finir, Patrick Simon, vous êtes sociodémographe, directeur de recherche à l'Institut National d'Études Démographiques, INED, dans l'unité de recherche Migration internationale et minorité, et chercheur associé au CRIS, Centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po. Et vous êtes co-auteur du 2e volet de l'enquête de grande ampleur, Trajectoire et origine, Théo, menée par l'INED et l'INSEE. Donc cette enquête qui a pour but d'étudier comment les origines migratoires influencent le devenir des personnes. Et cette enquête sera donc un petit peu le fil rouge de notre discussion. On y reviendra plus en détail. Alors avant de commencer, je vous propose un petit exercice, mes chers intervenants. Est-ce que vous acceptez de vous situer sur le plan de vos origines? Je pense que ça peut être une bonne manière aussi de commencer à entrer dans le sujet. Donc je vais commencer. Moi, je suis née d'un père né au Burkina Faso et d'une mère née en France. Donc personnellement, je me définis comme une femme métisse afro-descendante. Je vous laisse la suite. Nathanaël?
Moi, je viens de Charente et je crois que toutes mes origines remontent à la Charente.
Ok.
Donc, à ma connaissance, je n'ai pas d'origine, mais je sais, je n'ai pas fait ma généalogie assez loin, je pense.
Ok, merci.
Pour ma part, je suis née en Auvergne, à Clermont-Ferrand. J'ai beaucoup représenté l'Auvergne au niveau national, dans le cadre des chantiers de jeunes. Et donc, je me définis comme auvergnate. Voilà.
Moi, il y a une espèce de paradoxe parce que je suis un homme blanc de 60 ans et je représente l'incarnation du dominant et je travaille sur les questions de domination et de discrimination. Donc, il y a toujours un grand écart qui est un inconfort et qui interroge aussi hein, sur les sujets sur lesquels je travaille. Donc, mon objectif, c'est de restituer des expériences, mais pas de me mettre à la place des personnes qui les vivent parce que j'ai pas de titre pour le faire.
Merci de vous être prêté à l'exercice. Alors, je vous propose pour commencer de m'adresser à Patrick Simon. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment l'enquête Trajectoire et Origine, elle a été réalisée et dans quel but? Parce que je ne sais pas si tout le monde dans la salle la connaît. Là, on va surtout parler de la deuxième édition. Mais est-ce que vous pourriez peut-être retracer un peu l'origine de l'enquête?
Oui, Claire Hédon a déjà dit beaucoup de choses sur l'enquête elle-même. C'est une enquête qui a été réalisée par l'INED et par l'INSEE, donc par l'Institut statistique français. Et l'objectif, en fait, c'était de combler une lacune. On sait peu de choses, en tout cas, l'appareil de statistique ordinaire a peu d'informations sur les personnes immigrées et les personnes descendantes d'immigrés. C'est amélioré quand même dans le temps, mais néanmoins, il y a quand même une lacune. Et on avait dans les débats publics et sociaux, politiques et sociaux, sur les questions liées à l'immigration, mais aussi les discriminations, la situation des personnes d'ascendance immigrée, beaucoup d'approximations, des stéréotypes, des représentations qui peinaient à trouver des éléments de réponse sur quel était le concret des trajectoires, des expériences, des situations. Et donc l'enquête avait pour vocation de faire ça. Alors c'est une enquête assez lourde qui touche pour la deuxième vague 27 000 personnes. Et l'enjeu, c'était d'arriver à surreprésenter des groupes qui sont peu nombreux dans la société et qui du coup sont complètement invisibles quand on fait des enquêtes auprès de 5 000 personnes. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 10% d'immigrés dans la population en France aujourd'hui, toutes origines confondues. Donc ça comprend beaucoup de diversité et d'hétérogénéité, puisque les immigrés ne sont pas nécessairement tous identiques les uns avec les autres, hein, contrairement aux représentations qu'on peut en avoir. Les descendants d'immigrés, c'est à peu près 11%, 11 à 12%, c'est-à-dire les personnes qui sont nées en France d'au moins un parent immigré. Et puis, donc matériellement, quand vous faites une enquête auprès de 5000 personnes, il y aura 500 immigrés et puis un peu plus de 600 descendants d'immigrés, toutes origines confondues. Du coup, on ne pourra rien dire sur les singularités des trajectoires des personnes originaires d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud-Est. Et donc l'enquête a cherché délibérément à aller chercher, à aller rencontrer un nombre suffisant de personnes d'origine variée pour pouvoir restituer quelles étaient les trajectoires, les expériences, avec une entrée principale sur deux dimensions. D'une part, la dimension participation à la société, qu'on appelle intégration, mais que nous, on a qualifié de participation à la société, donc de reprendre les questions de participation politique, de pratique aussi, linguistique, culturelle, des formations familiales, enfin, l'accès à l'éducation, les trajectoires professionnelles. Bref, on a couvert à peu près tous les domaines de la vie sociale de façon assez large, et puis de traiter plus centralement les questions de discrimination, puisque c'est un enjeu de rendre visible cet invisible, donc les raisons parler, et donc d'attraper ces expériences de discrimination à travers différentes dimensions, différents modes de représentation. D'une part parce que les personnes vont en dire, donc questionner sur l'expérience de discrimination, mais aussi d'attraper ça dans des situations que peuvent rencontrer les personnes dans leurs expériences sociales. Et donc l'enquête était destinée à faire ça.
Merci beaucoup. Oui, donc on va essayer, là, durant cette table ronde, d'illustrer assez concrètement ce que ça veut dire, les discriminations liées aux origines. Et alors, je voulais juste aborder un petit point sur l'enquête avant qu'on entre là-dessus. Vous avez décidé, dans le deuxième volet, d'inclure les descendants de troisième génération. Donc, c'est les personnes qui ont un grand-parent immigré. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous avez observé avec cette nouveauté?
Oui, alors là, on rentre dans les généalogies. En fait, déjà la décision de faire des enquêtes auprès des descendants d'immigrés, c'est-à-dire pas simplement aux personnes immigrées, était née du constat assez partagé que l'expérience de la singularité éventuellement, en tout cas c'est une question, hein, c'est pas toujours vérifié, les personnes qui avaient des parents immigrés pouvaient toujours faire l'objet d'un certain nombre de stigmatisation ou parfois de singularité dans leur trajectoire, ne serait-ce que par l'héritage aussi familial et des histoires qui sont déposées dans ces familles. Et pour nous, c'était intéressant et important de pouvoir rendre compte de ces situations de ceux qu'on appelle les descendants d'immigrés ou la seconde génération qui avait été devenue publiquement très visible, en particulier au moment des marches pour l'égalité de 83 et 84, et puis qui est aussi commentée de façon assez récurrente lorsqu'il y a des émeutes urbaines, celle de 2005, et puis encore plus récemment celle de 2023. Donc les descendants d'immigrés sont des acteurs sociaux dans la société, et si le message de l'égalité a un sens quelconque, et bien il faudrait voir si ça fonctionne. C'est-à-dire, est-ce que les confrontations, les discriminations que peuvent connaître les immigrés sont reconduites à la génération d'après ou pas ? La question se pose aussi également pour les petits-enfants d'immigrés. Alors, ça commence à aller chercher loin. Là, à peu près 10% de la population a un grand-parent, un ou plusieurs grands-parents immigrés. Vous voyez que là, ça commence à devenir un peu oiseux d'entrer là-dedans. Mais l'intérêt d'aller faire cette enquête auprès des petits-enfants d'immigrés, c'était aussi de vérifier ou de s'interroger si les situations rencontrées par les descendants d'immigrés se reconduisaient à la génération d'après. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une structure lourde de formation minoritaire dans la société française, ou est-ce que vraiment, à la troisième génération, tout ça se dissout, la mixité, la diversité des ascendances, hein, qui est quand même assez forte, hein, pour vous donner une idée, à peu près 90% des petits-enfants d'immigrés n'ont qu'un ou deux grands-parents immigrés. Ce qui veut dire qu'après, savoir quel est le legs de cette histoire dans la famille, c'est assez compliqué, peut-être que c'est très lointain et qu'il n'y a pas beaucoup d'incidence sur la situation des personnes, ou peut-être que c'est très présent et on imagine qu'il y a des facteurs qui rendent plus présent cette histoire dans la famille, qui sont liés au nom de famille, liés à la religion, liés à la couleur de peau, où là, la transmission intergénérationnelle va renforcer la visibilité à l'intérieur de la société française, au-delà de ce que l'identité des personnes. Donc on a des questions comme ça. Donc on a fait cet exercice dans l'enquête. C'est compliqué parce que y a pas la plupart, l'essentiel des troisième générations aujourd'hui, pour le dire comme ça, sont d'origine européenne en fait. Puisque c'est le legs de l'immigration de l'entre-deux-guerres et de l'immédiat après-guerre italienne, polonaise, espagnole. Et donc pour voir qu'est-ce qui arrive à la troisième génération maghrébine ou subsaharienne, par exemple, c'est le début de la troisième génération maghrébine, même si l'immigration maghrébine a commencé fortement, elle existait déjà avant, mais elle a pris de l'ampleur dans les années 50. On est au début de l'entrée en vie adulte des troisièmes générations, donc c'est encore un peu tôt vraiment pour voir, mais on a déjà quelques résultats et spoiler, ça se passe pas exactement pareil pour les troisièmes générations européennes et les troisièmes générations non européennes.
Oui, bon, on peut s'en douter. Ce sera peut-être pour la troisième volée de l'enquête, du coup, qu'on aura plus d'informations. Alors, j'aimerais savoir aussi, entre les deux volets, il y a 10 ans qui séparent les deux enquêtes. Donc, est-ce que vous avez des grosses évolutions, des chiffres un peu clés à donner au public pour qu'on puisse se faire une idée des changements en 10 ans sur les discriminations?
Je crois que Claire Adon a dit l'essentiel. Enfin, entre les deux enquêtes, donc il y a un peu plus de 10 ans qui s'est écoulé, et les déclarations de discrimination, c'est-à-dire que les personnes, quand on leur demande « Est-ce que vous avez été discriminé dans les 5 dernières années ?» En 2008-2009, 14% de l'ensemble de la population disait âgée de 18 à 50 ans. Je m'excuse sur les précisions, mais bon, ça, c'est pas très important, mais quand même, ça cadre un peu le sujet. Disait « J'ai été discriminé, oui, ça m'est arrivé dans les 5 dernières années ». Et en 2019-2020, c'est 19%. Cette augmentation est portée pour l'essentiel par une déclaration beaucoup plus importante des femmes du groupe majoritaire, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas d'ascendance immigrée sur deux générations. Hein. Dans mon vocabulaire, je suis désolé, mais on a un peu cadré comme ça. Les personnes qui sont immigrées ou qui sont descendantes d'immigrés sont désignées, et les personnes qui ne sont pas immigrées ou descendantes d'immigrés sont qualifiées dans votre travaux de population majoritaire. Voilà. Donc, quand je dis majoritaire, c'est à ce groupe-là que je fais référence. Ce sont donc les femmes qui sont de la population majoritaire qui ont déclaré beaucoup plus de discrimination liée au sexe. Et donc il y a une prise de conscience, une formalisation, une verbalisation des expériences de discrimination à raison du sexe entre les deux enquêtes, qui montrent aussi un déplacement en fait de la perception des situations que rencontraient les femmes, et elles ont mis le mot discrimination sur les inégalités auxquelles elles étaient confrontées beaucoup plus qu'avant, ce qui augmente la masse. Après, pour les discriminations liées à l'origine, il n'y a pas eu d'augmentation très forte. Il y a même eu une petite diminution pour les groupes les plus exposés, qui étaient les personnes d'origine maghrébine et subsaharienne. Une petite diminution. Et il y a eu une augmentation des déclarations de discrimination à raison de l'origine, en particulier chez les personnes de la seconde génération asiatique. Et là, on pense que le contexte Covid, le contexte des insultes, des traitements auxquels les personnes d'origine asiatique ont fait l'objet, a contribué à augmenter. Mais par ailleurs aussi, tout un débat autour du racisme anti-asiatique qui a pris corps un peu dans les années avant Covid aussi, et qui a construit la représentation, la prise de conscience qu'il y avait du racisme anti-asiatique, et ça conduit. Et il y a plus de déclarations aussi chez des personnes d'origine européenne, notamment d'Europe du Sud, portugaise, italienne, espagnole, qui déclarent plus de discrimination à raison de l'origine dans les 10 dernières années. Alors là, on n'a pas tellement d'explications, mais ça fait partie des choses qu'on essaiera de regarder. Il y a une tension, visiblement, pour... également pour des personnes d'origine européenne.
D'accord, très bien. Merci pour ces informations.
Même audio, une mémoire sonore.
Alors, je vais me tourner vers Nathalie Vigneault. Donc, vous coordonnez une association locale donc qui vient en aide aux personnes roms dans la région toulousaine. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner des exemples de barrières spécifiques que vos adhérents rencontrent? Peut-être les barrières les plus courantes. Comment est-ce que ça se manifeste en fait au quotidien, la discrimination pour ces personnes?
Elle se manifeste de plusieurs manières. Déjà, je rejoins ce que disait Claire Hédon tout à l'heure. La première barrière, c'est la prise de conscience. On parle, nous, on accompagne donc des personnes qui se définissent comme roms, donc qui, j'emploie volontairement ce mot parce que c'est elles-mêmes qui se définissent comme telles, parce que c'est aussi un débat sémantique. Donc ça renvoie à l'anti-tsiganisme, ce racisme spécifique contre les roms et les tziganes en France. Et ces personnes-là, elles n'ont pas toujours conscience des discriminations qu'elles vivent. Je vais prendre un exemple, par exemple. Il y a deux ans, on a travaillé sur l'abécédaire des droits de l'enfant de la Flambert, qui a été produit avec les enfants et les habitants du terrain. Il n'y a pas d'eau potable sur le terrain. On a des enfants qui sont nés sur ce terrain et qui, pour eux, c'est normal de ne pas avoir d'eau potable chez soi, parce qu'ils n'ont connu que ça dans leur vie. Donc c'est justement le rôle de l'association, c'est de renforcer leur pouvoir d'agir, de leur donner les moyens de développer leur capacité, leur talent, leurs possibilités, pour qu'ils prennent conscience de ces discriminations pour demain mieux les combattre. Et on parle aussi avec l'antitiganisme des discriminations qui sont systémiques. Et donc elles se manifestent de plein de manières différentes. Vous parliez tout à l'heure de contrôle aux faciès. Je pense que quand on ne les vit pas, on les sous-estime. Moi, j'ai appris à mes dépens parce que je le vis avec eux. Et tous les partenaires avec lesquels on travaille nous disent, mais c'est vrai, quand on a des enfants du terrain, si ce n'est que dans le métro, les agents de sécurité les dévisagent. Mais c'est pas que les forces de l'ordre, c'est les agents de sécurité à Carrefour Purpan, c'est dans n'importe quel centre commercial, c'est le quotidien, le contrôle au faciès, c'est du quotidien. C'est comme si on écrivait sur la tête des roms, voleurs, délinquants. C'est systémique, systématique, systémique. Mais ça, c'est qu'une partie de leur quotidien. Et je vais en prendre un autre qui, malheureusement, renvoie nous à une actualité un peu inquiétante sur le terrain de la Flambert, qui est un terrain licite puisqu'il est loué par la mairie de Toulouse. Situation qui va changer au 1er janvier 2025. Et donc, on compte sur des assistantes sociales qui, elles-mêmes, sont pleines de préjugés et qui vont rétorquer à un jeune du terrain qui est en demande de logement qu'il n'est pas apte à vivre en appartement. Une deuxième assistante sociale qui va rétorquer à un autre couple qu'elle aussi, elle cherche un appartement. Donc, la situation totalement inégale. Donc là, on a quand même un problème de posture professionnelle. On a une autre assistante sociale qui va faire un dossier logement pour être prioritaire, où elle va indiquer l'adresse du terrain qui n'a pas de boîte aux lettres au lieu de mettre la domiciliation. Donc, ça, on perd 10 mois dans l'accompagnement social. Là, c'est que 3 exemples, mais on en a des dizaines d'exemples comme ça qui viennent entraver. Enfin, on est vraiment sur des discriminations systémiques où là, on est... On ne sait pas quoi faire, on est vraiment démunis face à ça. Et là-dedans, on a des habitants qui ne parlent pas toujours français. Et du coup, comment elles se défendent de ça? C'est tout l'enjeu pour nous. Et donc, nous, on travaille sur des moyens artistiques et culturels, comme cet abécédaire. D'ailleurs, il y en aura certains à la fin pour ceux que ça intéresse. Petit instant promo. Et donc, on travaille justement sur cette expression artistique et culturelle pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes. Et c'est long.
Et alors, les personnes avec qui vous travaillez, donc dans le cadre de l'association, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment est-ce que ça influence leur estime personnelle, leurs aspirations? Donc j'imagine que si déjà l'accès au logement est compliqué, pour ensuite s'insérer professionnellement, avoir des ambitions professionnelles, c'est bloquant aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça?
Je dirais que la première chose que ces personnes demandent, et d'ailleurs je rends hommage à André, Antonio et Florine, qui sont nos 3 salariés, qui sont... derrière, là. Vous pourrez leur poser des questions tout à l'heure. La première chose que ces personnes, elles demandent, que ces habitants demandent, c'est le respect et la dignité. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais elle n'est pas toujours ouverte pour tout le monde. Donc je pense qu'on peut le répéter. Nous, on préfère le mot respect que tolérance, parce que quand on dit tolérance, on est déjà dans une posture supérieure. Ça veut dire qu'on tolère l'autre, on l'accepte l'autre. Non, nous, on préfère parler de respect et on préfère parler de dignité, parce que ça veut dire qu'on reconnaît en la personne sa capacité à participer à la société et à être acteur de la société. Et là aussi, il y a toute une prise de conscience à faire, et là, il y a du travail. Alors, effectivement, ces discriminations, elles altèrent l'estime de soi, elles altèrent parce que du coup, quand vous êtes vu comme des voleurs, comme des délinquants, vous avez l'impression que vous n'êtes que ça dans la société, que vous n'avez aucun rôle à jouer, alors que tous ces habitants, tous ces jeunes, parce qu'on fait beaucoup de projets avec les enfants et les jeunes, eh ben, ils ont des talents, ils ont des capacités. Et quand je vois nos 3 salariés qui sont devenus salariés alors qu'ils ne se voyaient faire que leur métier de leurs parents parce qu'on leur a toujours dit que ça, il faut absolument casser ce déterminisme social, cette reproduction, en disant à tout le monde, mais si tu es capable de vivre dans la société, tu es capable parce que tu as des capacités, tu as des talents, tu as des choses à montrer, à démontrer. Et tu es un citoyen comme tout le monde. Voilà. Donc ça altère l'estime de soi, et on le voit dans nos projets dans la médiation scolaire, où un de nos axes, c'est justement de montrer qu'ils ont plein de voies potentielles. On ne leur dit pas qu'il ne faut pas faire le métier de leurs parents, parce qu'il n'y a pas de métier de dénigrant ou à dénigrer. On veut juste leur donner le choix, de se donner le choix de leur avenir. Donc s'ils veulent faire le métier de leurs parents, ils le feront, mais on veut qu'ils le fassent par choix, et non pas parce que la société a dit ça.
Pour rester un petit peu sur le thème de l'école, je vais me tourner vers Noria Boukobza. Donc vous, dans le cadre de votre travail à l'INSPE, vous avez une vision assez claire en fait des enjeux liés à la discrimination en milieu scolaire, puisque vous formez les professeurs à ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu des exemples de comment ça se manifeste, ces discriminations? Est-ce que ça se fait dans l'orientation? Est-ce que ça se fait déjà dans le choix de vers quelles études on va tourner un élève ou un autre? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner là-dessus?
Avant de parler un peu là des exemples par rapport à l'INSPE, je voudrais quand même rappeler au sein de l'université qu'on est quand même un lieu assez dynamique, et vous aviez dit que c'est un lieu bouillonnant, parce que déjà à l'INSPE, quand on aborde cette thématique de la discrimination, c'est déjà, on a vraiment une histoire très ancienne. Déjà, c'est les discriminations liées au genre d'abord, qu'on a d'abord abordé depuis plus de 20 ans, donc il y a toute une équipe Arpège c'est 100 enseignants, chercheurs, doctorants qui travaillent sur les différentes formes d'inégalités, qui abordent aussi, voilà. Donc on a toute cette dynamique au sein de l'INSPE, et donc aussi les directions ont voulu mettre en place des référents égalité, des référents sur le racisme ou autre. Donc ça, c'est pour montrer déjà toute la ferveur de cette dynamique. Et puis il y a des cours aussi, donc je voulais dire comment aussi on peut sensibiliser d'abord dans un premier temps les étudiants ici en L2, L3, parce que moi je les retrouve en master après, Donc c'est pour ça que, parce que certains, je vais les retrouver en master, donc il y a des, on les aborde, c'est toujours cette discrimination, on les aborde sur des, pas de manière frontale, en tout cas de manière directe, mais il y a des cours, par exemple, qui sont proposés en sociologie, sur éducation et société, qui permet de donner des clés de lecture, par exemple, sur éducation et migration, donc de comprendre un peu, eh bien, qu'est-ce que c'est un immigré, qu'est-ce que c'est un étranger, toutes ces notions-là qui sont pas compréhensibles pour tous. Il y a aussi un cours, par exemple, en L2, sur femmes et Europe, qui permet d'aborder, eh bien, toutes les thématiques, et ça sensibilise les étudiants sur ces questions-là, qui sont, donc, qui nous arrivent, hein, du bac, ils sont en L2. Et puis, il y a d'autres cours aussi. Moi, je mène aussi des cours sur l'anthropologie urbaine, où pendant très longtemps, j'ai emmené les étudiants au Mirail, montrer, avec tous les a priori et les préjugés sur les populations issues des quartiers. Et à un moment donné, il y a quelques années, je les amenais faire une balade au Mirail, à la rencontre de la population, à la rencontre d'acteurs de terrain. Je pense à Annie Fattard, qui travaille beaucoup dans une association qui était et qui leur faisait part un peu de ce que vous faites, ce que vous racontez un peu sur les Roms, que quand les jeunes partaient des quartiers de Toulouse pour aller dans un musée, faire du golf ou autre, on les a signés sur un territoire. Voilà, on les renvoie à leur territoire, et donc on aborde bien sûr les inégalités de territoire. Donc là, à l'INSPE, donc dans un premier temps, donc moi j'ai une mission auprès de l'INSPE sur les luttes contre les discriminations, mais celle qu'on évoque le plus souvent, c'est bien sûr celle de l'égalité filles-garçons, d'abord sur la question du genre, dans un premier temps, mais mon approche, mes études sur les populations issues de l'immigration me permet d'ouvrir auprès des étudiants et d'aborder bien sûr la question de l'ethnicité et bien sûr la question des inégalités de territoire quand on est issu d'un territoire donné avec soumis à la politique de la ville ou parce qu'on habite dans des résidences autres, on va pas avoir les mêmes discriminations. Mais la difficulté, c'est qu'on a quand même un temps très court au niveau des formations, et donc on ne peut pas tout ouvrir. Donc là, on essaie de sensibiliser les enseignants. Je leur donne par exemple des études de cas. Vous avez cité le cas de l'orientation, par exemple. J'avais donné une étude de cas sur une jeune fille qui voulait d'origine, qui avait pas d'origine visible. On donnait que le prénom. Voilà, je donne que le prénom. Elle s'appelle Safia et qu'elle est de tel territoire. Et donc, à un moment donné, de voir comment vous la projetez à un terme pour travailler sur les représentations, les préjugés. Donc déjà, on arrive à avoir les futurs enseignants ou même des enseignants qui sont déjà en poste de travailler sur des études de cas et de travailler sur leurs représentations, leurs préjugés. Et en même temps, de les faire réfléchir. Donc ils repartent non pas avec des outils, parce qu'on n'a pas trop d'outils sur la question, on aborde très peu la question du racisme de manière frontale en tous les cas. Moi je l'aborde de manière un peu plus large pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse avoir un dialogue. Donc, à un moment donné, ils ont des fois des représentations, parfois, je vous donne un exemple, hein, un prof de PS nous dit à un moment donné, je forme là dans un établissement, nous dit oui, mais les Noirs, ça court vite. Voilà, il dit cette phrase et il s'entend, donc là on est dans une discrimination indirecte, il comprend pas qu'on pointe du doigt et on essaie de le faire réfléchir pour qu'il puisse argumenter, pour qu'il puisse comprendre voilà, le cheminement. Mais si on y va de manière frontale en disant votre propos est déplacé, votre propos n'est pas ce que vous dites, d'abord déjà on lui dit est-ce que vous l'avez dit aux élèves, déjà pour voir comment les élèves l'ont reçu. Donc là, on réfléchit et on aborde cette thématique. L'autre élément que j'aborde aussi avec les étudiants, c'est parce que souvent, les étudiants, même des profs en poste, qui nous disent, nous, les élèves, ne se nomment pas français. Par exemple, ils ne se nomment pas français. Nous intervenons au collège Georges Sand, nous intervenons à tel collège qui sont des territoires, des collèges qui sont à côté, hein, dans la périphérie. Ils disent, donc là, je fais un exercice devant eux, parce qu'on avait une rencontre avec la principale donc, à l'extérieur. Et là, je leur dis, alors, vous vous nommez comment? Vous êtes de quelle origine? Cette fameuse question. Vous êtes de quelle origine? Des élèves de 6e, 5e, qui me disent, ben moi je suis algérien, madame, moi je suis marocain, je suis sénégalais. Et puis je leur dis, ah oui, et quand vous allez sur la place du Capitole, ben madame, moi je suis de Bagatelle, je suis de Farouette, je suis de tel endroit. Donc on voit bien que déjà, ça commence à changer la manière de se nommer, la manière de se... Et je leur dis, quand vous partez en voyage scolaire à Paris, ben on est Toulousain, madame. Et quand vous partez à l'extérieur, eh ben on est Français, madame. Voilà. Donc c'est intéressant parce que cette manière de se définir, on le fait tous ici, on le fait tous. Et donc à un moment donné, c'est aussi de montrer aux enseignants qu'il ne faut pas figer une identité. Au contraire, il faut prendre de... C'est une identité du moment, on est face à des adolescents, c'est une identité du moment, et elle ne doit pas être figée. Et ça me renvoie à des travaux que j'avais menés sur, par exemple, la marche de l'égalité, hein, contre la marche des beurs, hein, par exemple. Il y avait un article qui était très beau à l'époque qui disait « Nommer, c'est exclure ». Et donc, à un moment donné, c'est leur faire saisir ça aux enseignants de faire comprendre. Donc, c'est pour vous dire que la question des discriminations, celle qui nous intéresse dans un premier temps, bien sûr, c'est l'égalité filles-garçons, parce que c'est elle aussi qui est imposée. Il y a une injonction, on forme là-dessus. Ensuite, la question de l'ethnicité, la question des inégalités de territoire, parce que c'est celle aussi sur les REP+, sur ces questions-là. Et bien sûr, celle qui est aussi très présente, parce que les inégalités scolaires, c'est d'abord les inégalités sociales. Et donc, on voit bien que regarder aussi une population à travers la grille sociale pose aussi problème. On voit bien que les populations issues des quartiers, si elles sont de toute origine, quand elles habitent dans un quartier, elles sont de fait discriminées. Les populations qui sont de la même origine, en dehors des quartiers, qui sont propriétaires, qui sont ailleurs, ne sont pas regardés de la même façon. Ils ne sont plus comptabilisés de la même façon. Quand ils ne sont plus comptabilisés, il y aura d'autres formes de discrimination, mais ils ne sont plus dans ces grilles de lecture, dans ces grilles d'enquête. Donc ça, c'est des choses aussi, et ils sont beaucoup plus nombreux. Ça me renvoie à un livre qu'on n'en parle jamais, de ce livre, qui s'appelle « La bourgeoisie ». La bourgeoisie, il a été, c'est Catherine Whittenden, hein, qui avait fait cet ouvrage-là, qui montrait comment certains étaient arrivés à un niveau social élevé. Et là, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les réussites, et c'est là où on doit sensibiliser, toutes les réussites, on en parle peu. Donc il y a ces éléments-là. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est connaître l'histoire aussi de l'immigration. On ne connaît pas, on ne forme pas assez dans les établissements. Il y a des formations, certes, mais l'histoire de l'immigration, il y a des outils, il y a pas mal de choses, mais on n'est pas assez sensibilisé sur ces questions-là. Donc là, il y a peut-être quelque chose à repenser, peut-être je pense aux défenseurs du droit, de repenser sur les manuels, sur ces éléments-là. Donc moi, je pense à l'histoire de l'immigration, de la repenser de manière un peu différente. Et sur la question aussi, on a parlé aussi de discrimination au point de vue du religieux, par exemple. Hein. Eh bien, là aussi, je pense qu'il y a une méconnaissance. Moi, j'interviens pour la CARSAT, hein, sur un autre domaine, et sur la question des populations musulmanes, la représentation des populations musulmanes. Et là, au final, si on montre des chiffres de manière de la mondialisation, de partir d'abord d'un point de vue mondial, et de dire, voilà, on en est où, nous, en France, avec quoi, 5% par rapport à d'autres pays qui ont une représentation beaucoup plus forte, ça permet de prendre du recul, de la distance, et de mieux approcher les choses. Donc voilà comment la discrimination, donc c'est jamais de manière bien frontale, parce qu'il faut avancer avec les enseignants, il faut avancer avec les étudiants, et il faut leur donner, en tout cas, leur donner des éléments, leur donner du savoir sur ces thématiques, et repenser en tout cas les manuels pour pouvoir avoir quelque chose de plus large en tous les cas, où que chacun peut retrouver sa place. Voilà.
Même audio, une mémoire sonore.
Je vous propose qu'on retourne un petit peu sur les résultats de l'enquête, parce qu'il y a un paradoxe que je trouve intéressant, qu'on peut lire dans les résultats, c'est que les personnes qui sont nées en France, mais alors avec des parents ou grands-parents immigrés, on pourrait s'attendre à ce qu'elles se sentent davantage légitimes, davantage insérées, intégrées entre guillemets dans la société. Et pourtant, ce qu'on lit dans l'enquête, c'est que c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas forcément une meilleure sensation d'intégration quand on est né en France que quand on n'est pas né en France. Et je voulais savoir, s'il vous plaît, nous expliquer un peu ce paradoxe, Patrick Simon.
Oui, c'est un vrai faux paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que la seconde génération et descendants d'immigrés déclarent plus de discrimination que leurs parents immigrés ou que les parents que les immigrés eux-mêmes. Et cette déclaration plus élevée, elle est un peu contre-intuitive, parce que effectivement, il y a un meilleur parcours scolaire en moyenne que par rapport à leurs parents. Il y a une meilleure insertion sociale. Donc il y a la mobilité sociale qui se produit. Alors je ne sais pas si on va jusqu'à la bourgeoisie, mais enfin en tout cas, il y a quand même effectivement des situations différentes rencontrées par la seconde génération par rapport à la première. Mais ce qu'on observe, c'est que un, les taux de chômage sont plus élevés. C'est-à-dire qu'il y a plus de taux de chômage, le niveau de chômage pour la seconde génération est plus élevé que pour la première, à origine comparable. Donc il y a une entrée dans la société qui est un peu compliquée. Et puis deux, justement à cause de la mobilité sociale, une entrée dans des sphères de la société qui sont jusqu'ici peu concernés, ou en tout cas qui ne se représentent pas autour de la diversité des origines. C'est-à-dire que rentrer sur le marché du travail, dans la construction, la restauration, l'industrie lourde, ça, c'est des emplois dans lesquels il y a une forte concentration de personnes immigrées, ou du service à la personne. Par contre, avocat, ingénieur, professeur d'université, technicien, technicienne, il y a pas mal de professions dans lesquelles les descendants d'immigrés, particulièrement ceux qui sont d'origine non européenne, sont pas attendus. Et donc font l'objet de plus de filtrage et de discrimination que lorsqu'ils sont dans les métiers les moins bien payés et de basse exécution. Et donc le fait que les descendants d'immigrés parlent plus de discrimination, c'est aussi le reflet du fait qu'ils arrivent dans des secteurs de la société où les barrières sont plus dures. Parce que on va limiter l'accès, et donc ça peut expliquer ça. Et par ailleurs, c'est vrai que l'expérience de l'école est une expérience assez... fondatrice en matière de discrimination. Les premières expériences de discrimination pour les personnes qui vont traverser et qui sont racisées, ça va être à l'école. Et dans l'enquête, on a des questions sur la discrimination vécue à l'école, et elles sont pas anecdotiques, elles sont pas si fréquentes que ça, mais elles existent, et elles touchent principalement les questions d'orientation scolaire, et elles touchent également, pour les garçons, les questions de discipline et de sanctions. Et donc là, on a des moments où la socialisation au racisme se fait aussi à travers l'école, et elle se fait pas simplement, contrairement à ce que dit l'institution scolaire qui aime bien parler de racisme en parlant des racismes entre des élèves entre eux, ça se fait pas spécialement avec les élèves, ça se fait aussi avec l'institution scolaire, avec les enseignants, avec les formes d'organisation de l'institution scolaire. Et ça, c'est, je pense que Noria, c'est quelque chose que tu rencontres, c'est pas facile à reconnaître de la part de l'institution. Ça fait partie des institutions dans lesquelles c'est très compliqué de parler de racisme, parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'endroit où on éduque à l'antiracisme et pas l'endroit où on produit du racisme. Or, c'est une mauvaise nouvelle, si. On produit du racisme aussi dans l'institution scolaire, et ça a des conséquences sur les trajectoires des élèves et leur conviction de ne pas être traités exactement comme les autres. Et donc, ce qu'on a retrouvé, c'est que le fait d'avoir vécu des discriminations à l'école, en tout cas le fait d'en parler dans l'enquête, ça multiplie par 3 la probabilité de déclarer des discriminations ensuite. C'est-à-dire que cette socialisation à l'expérience des discriminations, elle va forger ensuite un point de vue sur sa trajectoire dans la société. Donc ça rend encore plus important l'enjeu d'être capable, à travers l'ISPE et à travers les formations aux enseignants, de réfléchir aux mécanismes par lesquels on produit les discriminations dans l'école, et comment on peut contribuer, pas simplement à l'éducation des élèves et le changement des programmes, c'est important, mais aussi de réfléchir collectivement dans l'institution scolaire sur ce qu'on peut produire comme effet de discrimination, et ça vaut pour l'université aussi.
Nathanaël, je voulais réagir sur le sujet des discriminations à l'école.
Oui, parce que les occasions sont rares d'entendre que le racisme est tabou à l'école. Souvent, on nous fait des grands yeux quand on dit ça, mais je suis content de voir qu'on n'est pas les seuls à le dire, que c'est pas toujours facile d'aborder le sujet qui existe. Enfin, nous, on le voit au quotidien. Et je voulais aussi dire que c'est un sujet qui est apparu dans le dernier plan contre le racisme dont Claire Hédon évoquait tout à l'heure, qui fait une part belle à l'école. Maintenant, il est sorti il y a presque 2 ans, ce plan, et on attend toujours 2 ans après concrètement qu'est-ce qui va se passer sur les territoires, en tout cas, parce que là on n'en est qu'aux annonces gouvernementales de janvier 2023. Mais concrètement, dans les écoles, auprès des enseignants, auprès des élèves, qu'est-ce qui va se passer pour parler et traiter le racisme à l'école, voilà, qui est très, très, très difficile dans certains établissements à traiter. Voilà. Et moi, c'est ce qu'on dit tout le temps, l'école n'est pas extérieure à la société, donc l'école n'est pas barricadée, donc s'il y a du racisme dans la société, il y a forcément du racisme dans l'école. Et ça, c'est un discours que beaucoup ont du mal à entendre. Donc, merci.
Est-ce que vous auriez des exemples peut-être à nous donner de discrimination subie à l'école par des membres de votre association ?
Là, je regarde André qui a été à l'école au collège et qui a vécu forcément des moqueries ou du harcèlement raciste, ou une jeune fille qui a arrêté l'école parce qu'on se moquait trop d'elle et que une omerta totale des enseignants. Et je pense que, alors je ne sais pas s'il y a des études qui ont montré l'impact du racisme ou du harcèlement raciste sur le décrochage scolaire, Mais je pense que ça serait intéressant d'avoir un chiffre là-dessus, parce que je pense qu'on le sous-estime aujourd'hui. Et plus largement, enfin, nous, on a eu des découvertes en région parisienne où il y a une personne rome handicapée qui a été poussée dans l'escalier parce que rome. Donc du coup, quand il vous faut en plus faire 45 minutes de transport en commun le matin pour aller à l'école, et en plus vous risquez votre vie parce que vous êtes rome et en fauteuil roulant, eh bien vous arrêtez l'école. Donc c'est pas des exemples isolés. Voilà, je vous en cite trois parce que c'est ceux que je connais, mais je pense qu'une enquête statistique là-dessus montrerait l'ampleur du phénomène, et ce serait très très inquiétant.
Merci. J'en profite du coup pour enchaîner un peu sur la suite, c'est-à-dire la question de l'intersectionnalité des discriminations. Donc Claire Hédon en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Pour définir un peu plus ce que c'est l'intersectionnalité, je vais essayer d'être simple, mais l'idée c'est que on peut vivre plusieurs formes d'oppression, de discrimination en même temps, et c'est différentes formes vont s'articuler, peuvent se renforcer aussi. Donc par exemple, si je suis rome et handicapée, donc je vais subir double discrimination et ça va se renforcer. Est-ce que peut-être vous pourriez faire quelques constats à ce sujet? Est-ce que dans l'enquête ça a été abordé? Et puis aussi, je vous laisse à chacun peut-être faire un constat là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pu observer en tant que chercheuse, en tant que membre d'une association sur ce sujet de l'intersectionnalité? Si je ne sais pas qui a envie de commencer.
Alors c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais l'intersectionnalité à manifester dans des enquêtes, c'est simple en partie parce qu'il suffit, enfin on a, les individus ont des registres d'identité assez variés, et donc on peut enregistrer les moments où ils vont déclarer être discriminés pour tel et tel motif. Mais dans la pratique, bien que des femmes noirs ou musulmanes ensemble peuvent déclarer des multiples discriminations, en pratique, les motifs ont tendance à s'absorber les uns des autres. C'est-à-dire que on a une discrimination fondée sur le sexe qui est déclarée par beaucoup de femmes blanches, mais par contre, les femmes noires vont avoir tendance à parler des discriminations à raison de la couleur de peau et moins à raison du sexe. C'est-à-dire que dans leur expérience, ce qui va emporter ce qu'elles vont rencontrer dans leur vie quotidienne, c'est plutôt la discrimination à raison de leur couleur de peau que celle du sexe, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas aussi des expositions au sexisme, mais c'est moins construit dans leur déclaration. Et donc on va avoir des formes de, comme ça, de superposition des motifs, de telle sorte que l'intersectionnalité, on va la reconstruire nous dans nos analyses, mais dans ce qu'en disent les personnes à travers l'enquête, hein, qui n'est pas des entretiens longs et fouillés individuellement avec les personnes, c'est moins notable parce que on va hiérarchiser en fait les motifs de discrimination en fonction de la récurrence où ils arrivent, et parce que ces expériences de discrimination dans la vie sociale, elles se saturent en fait, elles se font dans différents domaines à différents moments. Et souvent, le motif racial va devenir très prépondérant dans l'expérience, va envahir en fait l'expérience des personnes plus que celui du sexe qui va être vécu sur un autre mode en fait dans ces cas-là. Donc la superposition est un peu différente. Et par ailleurs, ce qu'on a vu par contre, et ça c'est un des résultats importants de la comparaison entre les deux enquêtes, c'est le motif de la discrimination en raison de la religion qui a pris beaucoup d'espace et qui est vraiment le reflet des 10 dernières années de débats autour de la laïcité, de la surprésence autour des questions de terrorisme, radicalisation, de la place des personnes musulmanes dans la société. Et donc on a vu un basculement en fait de motifs de discrimination qui étaient avant beaucoup déclarés autour de la question de l'origine pour les personnes d'origine maghrébine ou subsaharienne, et là ce qui a pris de l'ampleur, c'est celle de la religion qui s'est imposé, alors pas à même niveau, mais quand même qui prend beaucoup plus d'espace, ce qui veut dire que les personnes rangent en termes de discrimination religieuse les types d'expériences négatives qu'elles ont dans leur trajectoire et pas uniquement en termes d'origine. Donc on a là des formes aussi d'intersection qui vont se modifier à travers le débat public, à travers la science des identités dans l'espace public. Et les débats qui les entourent.
Quelqu'un veut réagir sur le sujet? Oui.
Ouais. Donc moi je te rejoins, hein, pareil par rapport au sexe et à l'origine. Hein. Donc c'est vraiment pour les femmes, c'est bien sûr le sexe qui. Moi c'est ce que j'ai vu, c'est d'abord le sexe qui prédomine avant l'origine culturelle. Arrive aussi la question du territoire. ça moi je l'ai vu, habiter au 3100, c'est discriminant. C'est discriminant, donc ceux qui ne sont pas de Toulouse, hein, c'est le quartier du Grand Mirail. Donc le territoire aussi, c'est très discriminant. Pour les garçons, ce qui est discriminant pour eux, c'est le territoire, leur sexe, le fait d'être garçon, et leur prénom. Leur prénom, le fait qu'il va marquer leur origine en tant que maghrébin, de ce que j'ai pu voir. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple aussi sur des formes. Je parlais du cas de Safia rapidement, dans le cadre de l'orientation. Cette fille, elle s'appelait Safia, elle était en troisième. Elle, c'est parce que d'abord, elle était une fille, d'une part. D'autre part, elle s'appelait Safia. Elle était à 10 km. Son collège était à la limite de REP, mais pas en REP. Et elle veut faire une filière scientifique, mais elle ne sait pas comment le dire. Et donc, le conseiller d'orientation la reçoit. Et au final, quand il la reçoit, il va d'abord lui dire qu'est-ce que tu veux, tu veux quoi? Eh bien, on va te proposer, tu vas faire un BTS. Il propose un BTS infographisme. Et elle dit, mais bon, moi, j'aimerais faire peut-être du français. Il dit, mais tu sais, il faut être bonne en français. Donc là, il dit, il faut être bonne en français. La fille a 15 de moyenne, mais il ne lui demande pas sa note. Parce que j'étais présente, que je l'avais suivie. Il lui demande, il lui dit pas sa note. Donc il va supposer, de par son prénom, qu'elle n'a pas la maîtrise du français, qu'elle n'a pas de bonne note. Et puis après, il va lui dire, elle va dire, oui, mais j'aimerais faire peut-être des maths ou de l'informatique. Il dit, bon, il ne va jamais lui donner le à l'époque, c'était le bac scientifique. Hein, il ne va jamais lui donner la possibilité d'avoir le bac scientifique. Donc cette gamine, elle va repartir. En final, elle fera un bac ES, hein, parce qu'en fin de compte, elle ne fera ni L ni S, parce que c'est là qu'elle hésitait. Elle va repartir et elle s'est sentie discriminée de par son territoire, parce qu'elle n'était pas dans le centre-ville, de par son prénom. Là, elle vit sa première expérience parce que son prénom va être, alors qu'elle n'a pas donné son nom de famille, tout ça, et le fait qu'elle ait une fille. Donc là, elle a quand même les trois éléments. Donc là, pour elle, ça a été une expérience assez difficile parce qu'elle pensait, en étant bonne élève, qu'elle n'allait pas avoir ces problèmes, qu'elle n'allait pas se confronter à cette problématique-là. Et en plus, n'étant pas... comme moi, le terme d'origine visible, on va dire, elle n'avait pas de visibilité qui pouvait supposer qu'elle avait une origine étrangère. Donc là, voilà, ça, c'est par rapport à ces thématiques. Et puis l'autre que je voulais citer, c'est qu'il y a eu une thèse qui a été faite sur les CPE, et une thèse sur les CPE d'origine maghrébine, et de montrer comment elles héritent malgré elles de certains stéréotypes, de certains travaux qui ont été menés sur le rôle des médiatrices culturelles. Donc, comme si être CPE quand on a une origine étrangère, en tous les cas, être CPE, c'est, on est dans le bon lieu. C'est-à-dire que ce que j'avais pu remarquer, ce qui est ressorti de certains enseignants, disant, moi, je suis prof d'anglais, moi, je suis prof de maths, à chaque fois, on me renvoie, on pense de moi que je suis CPE, ou que je vais me former en tant que CPE. Donc là, on renvoie cette image de médiatrice culturelle, une image qui est renvoyée aussi au quartier urbain. Et donc, voilà aussi, on les attend plutôt dans ces métiers-là que prof d'anglais, prof de français. Bon, là, ça avance un peu quand même, ça évolue. Mais bon, ça évolue, mais on a perdu quand même aussi parce que avec la masterisation, avec un bac plus 5, on a perdu beaucoup de personnes et n'ayant pas les moyens de faire leurs études, hein, et qui pouvaient montrer une diversité à l'école dans tous les niveaux. Donc là, ça aussi, ça a eu un impact en tous les cas de ne pas avoir une forte diversité. Voilà.
Nathanaël, est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet de l'intersectionnalité ?
Bah, c'est un sujet difficile, en tout cas. Nous, je ne suis pas sûr que les personnes avec lesquelles qu'on accompagne le vivent comme tel. Par contre, ce qu'on essaye de travailler, je dirais plus que c'est dans l'analyse de l'intersectionnalité. Par contre, quand on a des personnes qui discriminent les habitants ou les jeunes, on essaie de comprendre pourquoi ils les discriminent. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'origine ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui rentreraient en compte ? Et nous, dans l'association, on essaie de se détacher sur certains sujets de l'appellation Rome, justement, parce que autant on revendique cette appellation sur les projets culturels, parce qu'on est vraiment dans de la promotion de la culture des cultures Roms. Par contre, quand on va parler d'éducation, on préfère parler d'éducation pour les enfants en situation de très grande précarité. Parce que tous les Roms ou ceux qui se revendiquent comme Roms n'habitent pas en bidonville, et tous les habitants de bidonville ne sont pas des Roms. Et donc du coup, c'est sur ce genre de petits situations qu'on va demander, par exemple aux enseignants, mais est-ce que ça vous importe de savoir s'il est Rome ou pas ? Qu'est-ce que ça vous apporte de savoir qu'il est Rome ? Est-ce que c'est pas sa situation sociale, sa situation d'habitat qui fait qu'il réagit comme ça ? Donc du coup, on essaie plutôt d'être dans de l'analyse comme ça, plutôt que de penser que les habitants du terrain se disent « je suis victime d'intersectionnalité ». Parce que je suis pas sûr que la prise de conscience soit jusque-là encore.
Merci beaucoup. Alors, on a le temps qui file et j'avais beaucoup de questions, mais je vais essayer d'avancer un peu plus vite que prévu. J'aimerais peut-être qu'on parle avant d'inviter Madame Edouin à venir nous rejoindre pour la dernière partie de la table ronde. J'aimerais savoir quelles sont les peut-être solutions alors associatives que vous avez pu trouver sur les discriminations, donc des moments d'échange, des moments de création culturelle. Qu'est-ce qui peut permettre de briser cet isolement? Et aussi, est-ce qu'il y a des solutions collectives contre les discriminations? Comment vous faites concrètement pour agir là-dessus?
Ben ça, pour le coup, c'est notre quotidien. Nous, on s'appelle Rencontre Homme-Nous parce que l'idée de Rencontre Homme-Nous, c'est de créer des rencontres avec un mot, ensemble. Donc en fait, on multiplie des projets pour faire ensemble, pour découvrir des choses ensemble, pour partager ensemble. Là encore, j'enfonce une porte ouverte, mais qui n'est pas toujours ouverte pour tout le monde. Bon, du coup, l'idée, c'est d'inviter les habitants du terrain à participer à la vie sociale, à la vie culturelle, à rentrer dans des lieux culturels où ils se sentent pas forcément légitimes, mais de leur dire que ces lieux, ils sont aussi ouverts à eux. C'est de travailler avec d'autres groupes, donc souvent des groupes constitués, des centres sociaux, des associations, pour forcer la rencontre et de se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses à partager, à découvrir ensemble qu'à se tirer dessus. Donc on est sur ce genre d'action au quotidien, voilà, des actions culturelles, artistiques, où on reconnaît en les personnes qu'on accompagne leur capacité à produire des ressources, à produire des choses et à être acteur de la vie culturelle de Toulouse et à être acteur de leur vie. Voilà. Et alors c'est le temps long, on en parlait tout à l'heure, on accorde une importance fondamentale au temps. Ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en 1 an. Moi, je suis assez fier d'André parce que André, il avait 10 ans quand on a créé l'association. Donc aujourd'hui, il a 21 ans. Il va avoir 22 ans bientôt. Donc ça fait 10 ans. Donc il commence à revendiquer cette parole. Il commence à se défendre tout seul. Mais on n'a pas envie que ce soit que l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Donc c'est un immense défi qu'on pourra pas faire seul. Mais on est très heureux et on sait que ça marche. Voilà. Donc il faut pas hésiter. La culture et l'éducation sont des puissants leviers. Donc il ne faut pas hésiter, enfin, ce ne sont pas que des animations, ce ne sont pas que des sorties, il y a un vrai travail autour de l'humain, du sensible, et il ne faut pas le sous-estimer.
Même audio, une mémoire sonore.
Alors je vais inviter Madame Edouin à nous rejoindre pour la dernière partie de cette table ronde. On va parler des solutions en termes de justice et d'accompagnement, donc l'accompagnement associatif, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour quels sont les recours pour les personnes victimes de discrimination. Donc j'aimerais vous interroger tous et toutes sur un peu ce que vous avez pu observer sur les réactions des personnes confrontées à des discriminations. Parce que là, on a beaucoup parlé un peu de l'état des choses. Mais alors, quand on est victime de discrimination, globalement, dans l'enquête aussi, c'est assez intéressant de voir comment ça a été mesuré. Mais comment est-ce qu'on réagit? Vous parliez du fait qu'il y avait peu de recours quand même et peu de plaintes déposées. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime de discrimination et qu'est-ce que font la majorité des victimes? Peut-être Patrick Simon pour commencer.
Oui, ben ça reprend ce que disait Clément tout à l'heure, c'est-à-dire que la norme, quand on est... D'abord, c'est compliqué de se considérer victime de discrimination parce qu'il faut avoir des éléments qui permettent de voir des choses qui se voient pas, qui se disent pas. Alors bien sûr, il y a des insultes racistes, bien sûr, il y a des comportements qui sont très très perceptibles, mais la plupart du temps, les discriminations, ça se produit dans l'ordinaire des processus de sélection et on n'est pas au courant que ces discriminations soient produites. Donc il y a une nécessité d'avoir des éléments de comparaison pour pouvoir savoir qu'on a été traité différemment. Et puis après, même quand on l'a vu, il y a c'est très rare de rentrer dans la contestation, c'est-à-dire que la démarche de revendication contre les traitements dont on a fait l'objet est rare. Alors d'abord parce qu'il y a la conviction que ça sert à rien. Il ne va pas se produire grand-chose. C'est aussi parce qu'on ne veut pas s'aliéner l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit professionnel, relationnel, dans les lieux où on est. Et donc, il y a toujours une réticence à s'exposer, en fait. Et puis, il y a aussi une réticence personnelle qui est que la discrimination, c'est une violence contre son identité. C'est le fait que des éléments qui vous concernent soient traités comme de façon péjorative et négative. Et donc, c'est très compliqué de devoir se reconnaître à soi-même qu'on est porteur malgré soi, d'ailleurs, parce que ça peut ne pas être quelque chose de très de très significatif pour soi, on est porteur d'un stigmate en fait. Et ce stigmate, eh ben, avant de l'investir et de devoir se l'approprier d'une certaine façon, il y a un travail. Et probablement dans la société française, les cadres sont pas complètement bien établis pour pouvoir faire ce travail. Donc il y a des réticences, ce qui explique qu'il y a très peu de plaintes. Alors d'abord aussi parce que, en fait, en réalité, les recours, malgré le travail que fait le défenseur des droits, les recours juridiques, les recours même du côté de la police sont relativement limités. Et en fait, c'est vraiment l'impression que ça va servir à rien. Et c'est ça qui domine en fait les réponses. Hein, Claire Hédon a rappelé les chiffres. Moins de 2%, autour de 2% de dépôts de plainte, c'est quand même ridicule. C'est plus fréquent pour les femmes, c'est plus fréquent pour les personnes en situation de handicap, ça l'est moins pour les personnes qui sont discriminées à raison de leur origine ou de leur religion, où là, il y a une sorte de fatalisme qui est de dire, bah là, on va discuter de ça, c'est pas la peine, quoi.
Est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet ?
Oui, ce qui est très frappant, c'est que les personnes, et vous venez de dire, Patrick, les personnes ne font rien, mais c'est même, sans penser à aller devant des tribunaux, elles n'en parlent même pas dans leur entourage. Donc il y a une forme de honte par rapport à ça, et là aussi, il faudrait que ça se renverse et que ça aille dans l'autre sens, mais je crois qu'il y a différents recours possibles. Je pense d'abord que c'est important d'en parler dans son entourage. C'est important, quand on est en entreprise, d'en parler aux syndicats. Les syndicats sont quand même un bon intermédiaire sur les questions de discrimination. Et puis, évidemment, vous avez raison, il y a à la fois l'institution du défenseur des droits, il y a la justice. Au pénal, il y a très, très peu de condamnations. Mais vraiment, quand je vous dis très peu, c'est qu'on a passé plusieurs années sans aucune condamnation. Il y en a une cette année qui est une condamnation pour nous importante au pénal, sur lequel d'ailleurs le procureur nous a demandé un avis. Et c'est toujours intéressant quand c'est les tribunaux qui nous le demandent. C'était une personne aveugle qui était avec son chien pour rentrer dans un monoprix. Ça, l'enseigne a été citée donc dans la presse, donc je peux vous la citer. Puis il y a eu une décision donc et l'enseigne a été condamnée. Et donc, vous voulez bien le laisser rentrer, mais sans le chien. Mais en fait, quand vous êtes aveugle, le chien fait partie de vous. Et c'est une discrimination liée à l'accès à un bien, enfin un bien ou à un service. Mais la condamnation à la boîte est une condamnation pénale, elle reste quand même très faible en termes de montant. Et puis il y a plus de condamnations au civil, mais quand même on est sur des volumes qui restent très très faibles. Mais c'est aussi parce que, en fait, la question, dans le sens juridique, d'une discrimination, c'est quand même pas si simple que ça. On a beaucoup parlé de propos racistes, sexistes, mais c'est pas une discrimination. Et d'ailleurs, nous, l'institution, on est compétent en discrimination, on n'est pas compétent sur les propos racistes, sexistes, homophobes, islamophobes, tout ce qu'on veut. On n'est pas compétent là-dessus. En revanche, c'est vrai qu'il y a un continuum, c'est-à-dire que la discrimination dans les entreprises, par exemple, elle arrive jamais d'un seul coup. En fait, il y a eu des propos avant. Alors on vous dira, c'était des blagues, absolument pas drôle, hein, parce que ça c'est évident. Donc une discrimination, c'est une différence de traitement dans un des domaines prévus par la loi. Et les domaines prévus par la loi, c'est l'emploi et c'est l'accès aux biens et services. Accès aux biens et services, ça veut aussi bien dire donc l'entrée dans un magasin, que l'accès à des loisirs, que l'accès justement à une boîte de nuit, à un restaurant, à un logement, c'est cette partie-là. Et dans un des critères prévus par la loi. Et dans les critères, vous en avez cité plein en fait, parce que vous avez parlé de l'adresse, par exemple, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a l'origine, justement le fait d'être une femme, d'être en situation de handicap, l'orientation sexuelle, le fait d'être dans une particulière vulnérabilité économique, il y en a 27. Mais vous voyez bien que quand je vous le définis comme ça, c'est pas si simple que ça non plus dans les preuves, même s'il y a un aménagement de la charge de la preuve au civil. Et je pense que les personnes se découragent. Très souvent aussi, nous, ce qui nous frappe, c'est qu'elles se disent qu'elles n'ont pas les preuves. Et là, on leur dit, laissez-nous vous dire qu'il n'y a pas les preuves. C'est pour ça qu'on vous recommande de nous appeler, parce que nous n'avons pas de pouvoir de contrainte dans les décisions que nous rendons, mais nous avons de forts pouvoirs d'enquête. Et donc, par exemple, dans une entreprise, quelqu'un, justement, se sent discriminé par rapport à son origine, considère qu'il n'a pas la même évolution de carrière, nous allons demander les évolutions de carrière des autres. Et l'entreprise va être obligée de nous les donner. On va pouvoir faire des comparaisons. Et c'est là-dessus aussi qu'on est utile aux avocats auprès de leurs clients, parce que nous avons ces pouvoirs d'enquête et que nous faisons dans ces cas-là des observations devant les tribunaux. Mais moi, je voudrais insister sur le fait que en parler à quelqu'un, appeler la plateforme antidiscrimination, c'est important, et ça ne veut pas dire forcément aller porter plainte derrière. Et je comprends qu'on ait un peu de mal à aller devant les tribunaux ou même devant l'institution du défenseur des droits. Je redis que nous traitons gratuitement aussi les réclamations. Je ne l'ai pas spécifié, mais c'est quelque chose d'important. Peut-être que j'aurais envie de réagir à deux, trois choses qui ont été dites avant. Patrick, vous parliez de l'augmentation dans Théo, vous le voyez, l'augmentation de la discrimination religieuse. Je dois dire qu'on commence à l'observer dans l'institution et que ça nous a intéressé de voir que vous le voyez dans Théo, parce que nous sommes assez frappés d'une augmentation de réclamations et avec, je vous le cache pas, une inquiétude particulièrement sur les femmes voilées, sur le fait qu'au bout d'un moment, il y a une appréciation de la question de la laïcité à un point qui nous paraît un peu inquiétant et une impression que les femmes voilées vont pas trouver de travail. Dans le service public, il y a une question de laïcité, mais dans les entreprises, c'est pas la même chose. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pointer et qui effectivement nous inquiète. Et puis, vous avez aussi beaucoup parlé des questions d'orientation scolaire. Je trouve que c'est quelque chose qui nécessite vraiment d'être approfondi, parce que moi, je suis absolument inquiète sur ces questions de réussite scolaire, parce que ça fait complètement le lit, la suite de l'accès à l'emploi. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir mieux mesurer si on veut pouvoir lutter contre.
Alors moi, j'aimerais peut-être qu'on essaye ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces études, toutes ces données qu'on a, parce que au final, c'est des chiffres qui sont plus ou moins accessibles. Les constats, ils sont faits depuis très longtemps. Et en termes de politique publique, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui devrait être fait? C'est les questions que j'aimerais vous poser à tous et toutes. Et puis, est-ce que, selon vous, on manque d'investissement dans la lutte contre les discriminations? Bon, je pense que vous allez probablement répondre oui, mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez voir être fait en termes de politique publique sur ce sujet-là?
Déjà, comme on est au sein de l'université, je pense qu'on va... C'est des choses à réfléchir à la fois à l'université mais aussi à l'INSPE, de faire un peu plus de formation. Par exemple, on a une injonction, par exemple au niveau national, de faire, quand on forme les personnes qui ont déjà eu le concours, on appelle ça nous les DU50, on les forme sur trois axes, soit sur le handicap, l'inclusion, et sur l'égalité filles-garçons. Et donc je pense qu'il y a des choses, voilà, peut-être avoir un peu plus d'injonction au niveau national pour former sur ces questions-là. Déjà au sein de l'INSPE et peut-être au sein de la fac, ben voilà, mettre en place des choses, de réfléchir. Donc déjà, il y a déjà un référent, donc il y a des choses qui vont se mettre en place, mais c'est les formations et surtout la sensibilisation en amont pour qu'on puisse avoir un peu sensibiliser à la fois les étudiants, le corps enseignant, toute l'équipe, tout le monde sur ces questions-là en amont aussi, pour pouvoir un peu réagir. Et nous, à l'INSPE, on fait souvent venir le défenseur du droit aussi. Donc, sur des questions, on les fait intervenir. On a des partenaires de différentes associations. Ça permet d'avoir quelques éléments. Voilà. S'il y avait des choses à mettre en place. Et bien sûr, des études à mettre en place.
Pardon, je veux bien rebondir sur la question des études, et je ne sais pas ce qu'on pense. Mais enfin, il faut un observatoire qui mesure de façon beaucoup plus régulière, parce qu'en fait une enquête comme Théo, elle demande énormément de moyens, il faut plus de moyens pour la faire plus régulièrement, je pense que vous me contrediriez pas. Et donc ça, parce qu'en fait on lutte bien sur ce qu'on mesure, et donc il faut le mesurer plus régulièrement. Nous, on réclame à corps et à cri un observatoire qu'on voudrait évidemment au sein de l'institution sur les discriminations, mais ça demande des moyens financiers énormes. Je pense qu'il faut des campagnes d'information, de communication sur ce que sont les discriminations, pourquoi c'est délétère. Et à votre question, est-ce que les politiques publiques sont à la hauteur? Non, elles ne sont pas à la hauteur, on peut se le dire très franchement. Enfin, il n'y a pas une réelle volonté de lutter contre les discriminations. C'est intéressant la référence que vous avez faite au Prado sur qu'est-ce qui se fait dans les écoles. Ça ne nous a pas échappé que ça n'avançait pas. La simple chose, par exemple, dans le Prado, il y a le fait que les affiches, le 39-28, là, antidiscrimination, doivent être affichées dans toutes les écoles, collèges, lycées, universités, et tous les commissariats et gendarmeries. Bon,
Je peux peut-être faire un tour dans l'université. Je suis pas sûre que ça y est. J'ai pas un reproche à l'université hein, que je fais. C'est aussi au niveau des ministères quelle consigne a été donnée là-dessus. Je pense que cette question à la fois d'évaluer et de communiquer est absolument indispensable.
Moi, je rebondis. En fait, ça avance un petit peu, mais alors autant on revendique de prendre le temps. Autant quand ça se passe au niveau de l'État, on aimerait que ça accélère un petit peu. On sait qu'il y a des tractations entre le ministère de l'Éducation nationale, enfin entre les différents ministères, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais nous, en tant qu'association, ce qu'on dit, c'est que ça va se mettre en place à la fin du plan et on sera déjà en train de penser au prochain plan. Donc ça va tomber à l'eau. Et après, à votre question, qu'est-ce qu'on demande? Ben, la première des choses, je dirais qu'on demande des moyens. C'est de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis c'est de l'argent dans le fonctionnement. Nous, on milite. Il faut qu'on arrête avec les appels à projets parce qu'on met sans cesse en concurrence les associations, tout le temps. Surtout à un contexte aujourd'hui où ça va être très très difficile pour tout le monde. Et donc on met tout le temps en concurrence. Et ça, c'est des sujets qui demandent du temps, qui demandent de l'accompagnement financier. Et c'est pas un projet à date administrative du 1er janvier au 31 janvier. On ne résout pas, on ne traite pas le sujet, en tout cas pour nous, comme ça. Et après, je dirais aussi qu'au-delà de l'argent, il y a aussi une volonté politique, en tout cas sur l'anti-tsiganisme. Quand il y a des propos anti-tsiganes dans les médias, chez certains élus, il n'y a aucune réaction politique, tout bord confondu. On sort des conneries dans les journaux, sur BFM TV, sur CNews, sur toutes les antennes, et il n'y a aucune condamnation politique. L'année dernière, la DICRA avait osé critiquer un propos d'un journaliste, et il y a eu un rétropédalage en disant que finalement c'était pas ce que le journaliste voulait dire. Donc, et là on parle pas d'argent, on parle de volonté politique et institutionnelle. Donc c'est aussi un travail que l'État, enfin que les pouvoirs publics, parce qu'il n'y a pas que l'État, doivent faire, et je pense qu'on avancera.
Patrick Simon.
Edouard.
Moi, je suis assez pessimiste. Je suis assez déçu par la... Enfin, bon, c'est le problème de travailler sur ce sujet depuis trop longtemps. Il y a eu des va-et-vient, il y a eu des mobilisations, et puis il y a eu des reflux, il y a des compétitions dans les causes. Et donc, en fait, je pense que il faut concevoir aussi la dissymétrie dans les moyens d'action entre les différents motifs de discrimination. On peut prendre l'égalité entre femmes et hommes comme un modèle de mode d'action qui a une certaine rationalité. Je dis pas que les résultats sont spectaculaires, mais ils sont quand même consistants. Et si on prend ça comme étant la référence du mode d'intervention qu'on devrait avoir en politique publique contre les discriminations à raison de l'origine, on voit bien tout ce qui ne se fait pas. Par contraste. Et ce qui se fait pas, il faut qu'on ait tous à l'esprit, parce qu'on l'a touché du doigt, mais pas trop, c'est que il y a un enjeu autour des questions de catégorie de personnes. C'est-à-dire qu'on peut parler, bien que ce soit aussi discuté sur les identités de genre et également, mais on parle plus facilement des questions d'égalité entre femmes et hommes en ayant nommé les personnes concernées. On parle des personnes en situation de handicap. On l'a vu pour les personnes roms, c'est toujours aussi un enjeu de savoir qui se définit, qui se caractérise de cette façon. Et pour les questions d'origine, on est encore plus dans le vif. Hein. Noria a dit elle est auvergnate. Bon, mais c'est pas comme ça qu'elle est vue nécessairement par pas mal de gens quand elle évolue dans la société. Donc on est dans des tensions comme ça. Et si jamais on voulait sérieusement mettre des politiques actives, pas réactives, c'est-à-dire pas attendre que les personnes se plaignent d'avoir vécu quelque chose, mais actives au sens de cribler les modes de fonctionnement de nos institutions et des organisations pour les rendre moins biaisés en fonction de l'origine, eh ben ça signifie qu'il faudrait qu'on rentre dans le dur de s'auto-définir ou de définir les personnes en raison de l'origine. Et donc là, on est au cœur de la divergence française, faut le dire comme ça. La société française est une société égalitaire fondée sur le colorblindness. On a parlé de l'universalisme, ça c'est pas nécessairement sa traduction, mais c'est comme ça qu'elle se traduit en France, c'est-à-dire la meilleure façon de lutter contre le racisme, c'est de pas voir les différences raciales. C'est très noble, c'est très cohérent dit comme ça, mais en pratique, le problème, quand ça marche pas, quoi. Ça marche vraiment pas, pour le coup. C'est-à-dire que on voit pas. Et donc, à l'arrivée, le racisme est là partout, et on nous répète de façon inlassable que la solution, c'est d'éduquer aux gens, de dire ils se trompent. Ben oui, il se trompe, sauf que les institutions le reconduisent et tout le monde est dans la certitude de ne pas être raciste, et sans doute à juste titre, mais on a beau ne pas être raciste, on produit du racisme. Et donc, c'est ça la difficulté, et les politiques de lutte contre les discriminations ont cet enjeu de complication qui est que il faut être capable de passer dans un autre mode d'intervention sur la société. Cette prise de conscience qui est là, elle doit se traduire autrement. Et là, je dois reconnaître que je n'ai pas de solution miracle. C'est des débats de société qui doivent se tenir. Et comment dire, notre actualité politique et sociale montre qu'on ne va pas du tout dans cette direction-là.
Sur cette note un peu pessimiste, est-ce que je vous propose de vous laisser la parole si vous avez des questions pour nos intervenants et intervenantes. On va faire circuler un micro.
Même audio, une mémoire sonore.